Bonjour, donc merci d'être venu à cette deuxième conférence du cycle Penser les primes socialisation, regard croisé. Donc je rappelle que c'est un cycle de conférences organisé au sein de l'Institut français de l'éducation dans le cadre d'un programme de recherche initié par Bernard Lahire, professeur de sociologie à l'ENS de Lyon, directeur de l'équipe Disposition, pouvoir, culture, socialisation du centre Max Weber. Donc il m'a demandé de l'excuser pour son absence pour cause d'un autre séminaire à Lyon. Donc ce cycle de conférences vise à cerner les conditions historiques, sociales et psychologiques de production des croyances, des perceptions, des goûts, des habiletés d'ordre divers au cours de la petite enfance. Donc les deux premières éditions organisées en 2012 et 2013 ont permis d'entendre des chercheurs de disciplines diverses qui s'intéressent à l'enfance, donc psychologie, psychanalyse, neurosciences, histoire, anthropologie de l'éducation. Et cette année, le cycle présente surtout des enquêtes récentes menées sur l'enfance, la petite enfance, par des chercheurs qui sont en sciences sociales, principalement en sociologie, sciences de l'éducation, sciences politiques. Donc, lors de la première conférence, donc, Julie Pagis, chargée de recherche au CNRS, a présenté les résultats d'une enquête surtout ethnographique sur les amitiés, les inimitiés entre enfants dans deux écoles parisiennes. Donc, et aujourd'hui, nous allons aborder plutôt vraiment la petite enfance à partir d'autres outils d'enquête, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Bertrand Jay, donc sociologue, je ne sais pas si je peux dire politiste aussi, professeur en sciences de l'éducation.
Anciennement, oui. Enfin,
d'accord. Donc, sociologue, chercheur en sciences de l'éducation, directeur du Centre universitaire de recherche sur l'action publique et le politique, épistémologie et sciences sociales, donc un laboratoire de l'université de Picardie Jules Verne et du CNRS. Donc Bertrand Jay est spécialiste des questions de scolarisation, d'enseignement. Il a aussi travaillé sur l'enfance, sur les conditions politiques et sociales de la naissance, les cultures enfantines, divers travaux sur la socialisation primaire. Donc il est aussi directeur adjoint de l'enquête ELF, donc l'étude longitudinale française depuis l'enfance. Donc il coordonne le pôle thématique éducation-socialisation de cette enquête. Donc la conférence est intitulée « La socialisation première au prisme de l'enquête longitudinale autour de la cohorte ELF ». Donc l'étude longitudinale française depuis l'enfance, c'est une enquête inédite pluridisciplinaire dont le terrain a démarré en mars 2011, donc qui consiste à suivre une cohorte de plus de 18 000 enfants depuis leur naissance en 2011 jusqu'à l'âge de leurs 20 ans. Donc un projet piloté par l'INSERM, l'INED et plusieurs autres directions ministérielles, l'INSEE, la Caisse nationale des allocations familiales. Donc la méthode adoptée par cette enquête, c'est celle du suivi de cohorte. Donc c'est une enquête, une méthode qui est un peu inédite à cette échelle, en tout cas en France. Donc une enquête multidisciplinaire qui s'intéresse à l'exposition des enfants au polluant, mais aussi aux pratiques alimentaires, aux inégalités sociales face à la santé, et aussi à la constitution précoce des inégalités scolaires, à travers les questions de compétences langagières, linguistiques, cognitives. Et donc ça peut nous apporter beaucoup de résultats sur la socialisation dans la petite enfance. Par une approche essentiellement quantitative, donc, mais vous allez aussi parler d'une enquête plus qualitative que vous menez en lien avec l'étude ELF. Donc, merci encore d'avoir accepté l'invitation.
Eh bien, merci pour l'invitation et la présentation. Effectivement, je vais vous parler de l'enquête ELF. Je parlerai aussi de l'enquête que je mène parallèlement à ELF, que j'ai intitulée Génération 2011. Ceci pour me situer à la fois comme animateur, directeur d'une opération scientifique et en même temps un peu comme chercheur. Et dans la mesure où je pense que le quantitatif qu'on va avoir dans ELF sera extrêmement précieux et inédit, en effet. mais que malgré tout, pour comprendre vraiment ce qui se passe dans les familles, c'est important d'aller voir aussi. Et donc, pour explorer ces liens, je vous parlerai des deux enquêtes, mais je pourrais développer ce que vous souhaiterez et éventuellement davantage sur l'enquête ELF. Je vais parler d'un dispositif de recherche plus que de résultats de recherche, hein, puisque l'enquête a démarré en 2011 et que c'est un processus extrêmement lourd, très vaste, hein, je vais détailler tout ça. Et donc les premiers résultats de l'enquête en maternité sont disponibles depuis 6 mois. Et dans l'enquête à maternité, il y a éventuellement des choses pour les sociologues de la santé, mais la grosse partie des questionnaires en sciences sociales commence à l'âge de 2 mois. Et on vient juste d'avoir les premières bases de données, pas totalement complètes, et en cours d'exploration, les bases sont assez complexes. Et donc, on aura vraiment les premiers résultats que dans quelques mois. Donc, je vais plus faire une présentation de dispositifs, d'hypothèses, de méthodologies, etc., voir les enjeux, les questions que cela pose. Et puis, pour les résultats, on se retrouvera une autre fois. Voilà. Alors, je suis un migrant, en fait. Hein. J'étais sociologue quand j'étais maître de conf. Après, j'ai été prof de sciences de l'éducation. Et au sein de mon laboratoire, j'ai candidaté sur un poste de sciences politiques. Et maintenant, je suis prof de sciences politiques. Voilà. Donc, c'est un cas assez improbable, mais sans doute que j'ai un certain goût pour la pluridisciplinarité. Et le CURAP étant un laboratoire très pluridisciplinaire, ça tombe bien. Mais je suis sociologue de formation, ça ne fait aucun doute. Mais comme Julie Pagis, du coup, je m'intéresse en effet aux questions d'éducation, mais aussi aux questions politiques et morales. Et donc, ce qui m'intéresse chez les enfants, c'est bien sûr tout un tas d'autres questions comme le genre. On ne peut pas s'intéresser aux jeunes enfants sans s'intéresser d'abord à ce rapport social fondamental qu'est le rapport de genre, mais au rapport de classe aussi, bien sûr. Aux formes de socialisation qui s'engagent dans la famille, dans les modes de garde, à l'école, plus tard, etc. Mais avec une préoccupation spécifique autour de la socialisation morale. Et donc, ça va bien avec l'éducation, mais ça va bien aussi avec la politique, si on définit le politique comme quelque chose d'un peu plus large que la politique institutionnelle. Alors, tout d'abord, quelques enjeux avant d'aborder l'enquête ELF elle-même. Pour le dire très vite, mais ce n'est pas un scoop dans ce cycle, sans doute vous en avez déjà parlé, et puis à Lyon, les thématiques sont bien connues. Mais je rappelle quand même pourquoi s'intéresser aux enfants et en particulier aux jeunes enfants. Il se trouve, et je le vois tous les jours dans l'enquête ELF, que la petite enfance est un domaine réservé, que nous avons laissé, hein, les sociologues, les sciences sociales, très largement aux mains, dont nous avons laissé en quelque sorte une espèce de propriété exclusive aux psychologues et aux médecins. Et y compris, je pourrais y revenir, mais quand on introduit des questions proprement sociologiques dans une enquête comme ELF, ça ne va pas de soi du tout. Et alors, y compris si on introduit des questions politiques, par exemple, ce qu'on a fait, non sans difficulté, ça paraît complètement étranger au monde de l'enfance et a fortiori de la petite enfance. Or, pourquoi ne pas considérer que tout être humain, depuis sa naissance, est un être social ? Certes, Durkheim avait dit que la socialisation, c'était l'aboutissement, en quelque sorte, du processus. Mais la sociologie de l'enfance nous apprend qu'on peut tout aussi bien, avec les mêmes outils, peut-être pas de la même manière, mais avec des outils analogues, conceptuels et méthodologiques à ceux que l'on utilise pour les autres parties de la population, s'intéresser aux enfants, pas simplement comme membres d'une institution, la famille, l'école, mais comme ayant une vie, une biographie, des interactions, des points de vue. Et donc, à ce titre-là, il n'y a aucune raison que l'on ne s'y intéresse pas. On l'a laissé aux mains des psychologues et des médecins, sans doute, parce qu'ils étaient très actifs et que ça fait partie de leur terrain privilégié, hein, et pour des raisons qu'on comprend assez bien, hein, les politiques de prévention, de santé, épidémiologique, ont évidemment eu intérêt à se focaliser sur les âges précoces pour prévenir un certain nombre de maladies, pour développer les politiques de santé publique, et puis pour comprendre la psychologie d'un individu, eh bien, c'est important d'en voir la genèse. Donc il ne s'agit pas de leur en faire le reproche. Ils y sont quand même bien implantés dans cet espace, mais aussi parce que nous-mêmes avons délaissé, sans doute en raison de cette définition dont nous sommes un peu prisonniers en France, qu'avait formulé Durkheim. Je suis très respectueux et très fan de Durkheim, mais il faut bien dire qu'un certain nombre de définitions ont constitué autant de prénotions, en quelque sorte, pour notre discipline. Et donc, il y a tout un travail de réinvestissement à faire, de remobilisation à faire, de relégitimation aussi, hein, parce que les objets de recherche sont pris dans des hiérarchies scientifiques qui fait qu'il est plus légitime de s'intéresser aux élites ou aux adultes ou aux hommes, etc., etc. Et bon, quand on s'intéresse à la fois aux enfants, enfin, c'est pire que tout, quoi. Donc voilà. Donc il y a un travail de légitimation à faire sur ces objets pour dire qu'au fond, s'il y a quelque chose de fondamental à étudier, c'est bien cela. Et donc on est en plein dans le sujet de ce qui est le cœur de la science sociale quand on s'intéresse à la formation des dispositions chez les enfants. S'agit-il de sociologie de l'enfance ou de la socialisation? Les deux, bien sûr. La sociologie de l'enfance a eu le mérite, je le disais tout à l'heure, de changer le point de vue que l'on pouvait avoir sur les enfants, de mettre au centre de l'investigation le point de vue que les enfants portent eux-mêmes sur le monde social, mais aussi à partir des travaux des historiens qui, eux, ne nous avaient pas attendus sur ce terrain-là, mettre à jour les formes historiques d'encadrement, de représentation de ce que c'est que l'enfance. Alors, la limite de la sociologie de l'enfance telle qu'elle a été définie aux États-Unis il y a une trentaine d'années et telle qu'elle a été importée en France il y a une quinzaine d'années, c'est de considérer que enfance et socialisation, sociologie de l'enfance et sociologie de la socialisation, seraient deux entrées exclusives l'une de l'autre. La sociologie de la socialisation, ça serait la sociologie d'avant, la vieille sociologie, et la sociologie de l'enfance, ça serait New Look, ça serait formidable, ça serait donc interactionniste, américain, etc. Ce qui est assez absurde, hein, parce que, y compris si vous regardez un ouvrage comme celui de Cléopâtre Montandon, qui a été une des références premières dans cet espace, si vous la lisez bien, vous vous rendez compte que ce qu'elle nous raconte du point de vue de l'enfant, c'est une espèce de regard inversé sur les institutions auxquelles on pouvait s'attendre, sans vouloir trop critiquer Cléopâtre Montandon, mais il fallait le faire, ce qu'elle a fait, c'est intéressant. Mais du coup, on voit bien qu'on ne peut pas se passer des cadres de socialisation si l'on veut comprendre ce que nous disent les enfants. Et de la même manière, quand les sociologues de l'enfance laisse une place aux historiens pour nous parler de la construction historique de l'enfance, eh bien, on voit bien que les cadres historiques qui se sont produits s'imposent aux enfants et à la socialisation de l'enfant. Voilà, enfin, je pense qu'intuitivement, de toute façon, c'est assez facile à comprendre, mais on est quelques-uns à plaider pour un réassemblage, une réarticulation entre les problématiques de l'enfance et de la socialisation. C'est le cas de Julie Pagis, de Wilfried Ligné. Ça a été assez bien exposé dans le numéro de Politics, Différencier les enfants. Et Régine Sirota elle-même, peut-être pas ses collègues du réseau qu'elle a elle-même constitué, ne voient pas tous cela d'un bon œil, je crois, parce qu'ils se sont créés une spécialité. Mais moi, elle m'a invité à la dernière session du réseau international de la ISLF. Elle pense elle-même aujourd'hui que la socialisation a toute sa place dans la sociologie de l'enfance. Donc c'est une bonne nouvelle. Et continuons à travailler sur cette articulation de points de vue. Alors, malgré tout, c'est pas si simple. Et c'est pas si simple parce que les enfants sont quand même un public particulier à appréhender. Les enfants de 9-10 ans sur lesquels moi j'avais un peu travaillé il y a une dizaine d'années, c'est déjà pas si simple. Quand vous faites un entretien avec un enfant de 9-10 ans, ça tourne vite au questionnaire, quoi. Enfin, à l'alternance de questions et de réponses. Enfin, il faut créer des dispositifs un peu particuliers pour arriver à les faire parler véritablement de ce qu'ils font. Bien sûr, l'observation ethnographique et l'entretien ou le dispositif de jeu, le dispositif matériel de commentaires, d'images ou de situations est souvent plus propice pour arriver à les faire parler et à les faire parler valablement. Cela étant dit, cela ne fait que nous rappeler que toutes les fractions de la population ne sont pas également accessibles à ce que nous appelons l'enquête. Moi, j'enquête dans des familles très diversifiées actuellement. Bon, c'est vrai aussi pour certains parents. J'arrive dans certaines familles d'origine étrangère, de milieux très populaires, où j'ai du mal à constituer la situation d'enquête elle-même. C'est-à-dire avoir un interlocuteur en face de moi. Les gens sont très gentils, mais j'arrive même pas à stabiliser une situation d'entretien. Enfin, j'y arrive de temps en temps. Quand il y a quelqu'un qui parle français, quand il y a quelqu'un qui comprend les questions que je lui pose, etc., etc. Donc les enfants ne sont qu'un cas limite parmi d'autres de cette particularité de la relation d'enquête et qui fait que eh bien, c'est plus facile de travailler comme je l'ai fait avant avec les enseignants qui ont beaucoup de choses à dire, ou les travailleurs sociaux, ou les journalistes, qu'avec certains publics. Donc les enfants font partie de cette catégorie-là. C'est encore un peu plus compliqué si on prend les tout jeunes enfants, les bébés. Les bébés font-ils partie du public sociologisable, en quelque sorte? C'est un bel enjeu de recherche. Bon, en tout cas, il y a une difficulté technique immédiate, hein, c'est qu'un nourrisson, il dort beaucoup, il ne parle pas. Il crie éventuellement, il pleure, il peut déranger un entretien avec ses parents. Qu'est-ce qu'on peut observer chez un bébé? Cela étant dit, les psychologues l'ont beaucoup fait. Ils ont beaucoup observé des interactions, des situations dans lesquelles un enfant confronté à une situation donnée se comporte de telle ou telle manière. Et après tout, réagir à une situation, se comporter de telle ou telle manière, c'est le béaba de ce que nous avons à étudier. Donc c'est bien une question de méthode, de questionnement à formuler, mais rien ne devrait pouvoir nous échapper d'un point de vue sociologique dans ces situations certes particulières, mais qui relèvent néanmoins de situations sociales et de comportements qui sont justiciables d'une analyse sociologique. Ça ne fait là aussi que nous rappeler que le béaba de la sociologie, c'est l'étude des relations sociales. Et peut-être qu'après tout, il suffit de renverser la problématique en se disant que, au fond, ce que nous observons, peut-être plus facilement quand nous allons dans une famille, dans une crèche, ce sont des relations. Si on se donne pour projet d'étudier la relation entre une mère et son enfant, peut-être qu'on a la possibilité de faire une sociologie du bébé, en quelque sorte. Évidemment, vouloir isoler le bébé, et avec tous les problèmes que ça pose, parce qu'il n'est plus tout à fait dans son environnement sécurisé, etc., habituel, mais observer une relation, ce n'est pas un problème pour le sociologue. Et même d'une certaine façon, nous devrions toujours être en train d'étudier des relations. Quand nous isolons les gens pour un entretien, ce n'est qu'un artefact qui nous permet d'accéder à un discours qui parle des relations. Mais ce qui est fondamental dans l'analyse des entretiens, c'est de comparer les entretiens entre eux, d'y retrouver la manière dont les gens se sont situés dans des relations, dans un tissu de relations sociales, qui ont fait qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il suffit peut-être de déplacer, de renverser la perspective en se disant qu'après tout, voir ce qu'une mère ou un père fait avec un enfant, eh bien, c'est peut-être déjà étudier l'enfant en tant que tel. Voilà, donc pour étudier tout cela, l'enquête ELF, on va le voir, va nous apporter des instruments extrêmement précieux dans la mesure où on a de l'effectif, on a plus de 18 000 enfants, on a des caractéristiques sociales assez fines sur la position sociale, sur la famille, sur les modes de socialisation, sur toute une série de pratiques familiales, sur les opinions, sur les représentations, etc. Et ce, depuis la naissance. Donc, sur un terrain aussi vierge, il est important d'avoir des régularités sociales à peu près bien situées, à peu près bien cernées. Sinon, à partir de quelques observations, et désarmés comme nous le sommes, on pourrait aller un peu vite en besogne dans les interprétations. Donc, en cela, l'enquête ELF va nous fournir des résultats extrêmement précieux. Cela étant dit, comme je vais le montrer, l'enquête ELF est extrêmement satisfaisante d'un côté, excitante, mais frustrante, parce que pluridisciplinaire, et donc on a droit qu'à des petits nombres de questions sur chaque thématique. Et puis ça reste du questionnaire. Il y a quelques tests aussi, mais ça reste du questionnaire massivement. Et donc c'est réducteur. Et donc pour interpréter ce qui se dit dans les questionnaires, il me paraît, moi, essentiel d'aller voir dans les familles de plus près. Ce n'était pas exactement mon point de vue quand j'ai commencé à m'intéresser à ELF à son démarrage en 2005, puisque à l'époque, je m'intéressais aux enfants de 9-10 ans, et vu tout le matériel qu'on allait accumuler pendant des années, après tout, ce serait suffisamment riche, et au vu des enquêtes antérieures, etc., on aurait pu sans doute interpréter directement les résultats. Mais m'étant beaucoup investi dans le projet, du coup, j'ai eu envie de commencer à réfléchir et à enquêter dès le départ et à ne pas laisser passer, puis c'est peut-être trop vieux, les premières années. Donc, et là, pour le coup, vu les indicateurs quand même relativement réduits qu'on a sur les premières années, il me paraissait d'autant plus indispensable de coupler l'enquête ELF avec une enquête qualitative. Et comme dans ELF, les familles sont déjà énormément sollicitées, il n'était pas possible d'extraire des familles de l'enquête ELF pour aller les enquêter sur un mode quali. Donc, comme si je n'étais pas assez occupé, je me suis mis en tête de constituer ma propre cohorte qualitative, et en plus avec des objectifs un peu démentiels, mais je raconterai ça tout à l'heure. En tout cas, ça me paraissait indispensable et je n'ai pas trouvé de personne pour s'engager dans cette folie, et donc je fais cette enquête tout seul. Alors, ELF. D'où vient ELF ? ELF, c'est donc la première étude longitudinale française depuis l'enfance, c'est-à-dire que c'est une enquête sur population générale. Il y avait déjà des études longitudinales sur les enfants en France, y compris sur les petits-enfants, qui étaient des enquêtes essentiellement conduites dans le domaine de la santé, souvent sur des pathologies ou sur des effectifs plus réduits. En population générale, il y a l'enquête Eden, par exemple, il y avait l'enquête périnatalité, mais qui suivait les enfants que pendant quelques mois. L'enquête Eden, c'est sur quelques années, essentiellement avec des objectifs épidémiologiques, et sur 2 ou 3 000 enfants. Il y avait par ailleurs les panels scolaires. Il y a des enquêtes sur les jeunes, mais il faut attendre beaucoup plus tard en âge. Il y a aussi, depuis quelques années, c'est peut-être ça qui ressemble le plus aux attentions de recherche que nous, on a placées dans ce projet, les enquêtes du ministère de la Culture. Il y a des collègues de Lyon, d'ailleurs, qui participent à ces travaux, qui restent centrés sur les pratiques culturelles, mais qui nous disent pas mal de choses sur la formation des dispositions, malgré tout, qui commencent un peu plus tard également. Donc, des enquêtes, il n'y avait pas rien. Mais il n'y avait pas d'enquête générale, dès la naissance, sur une population représentative de la population au niveau national, et sur un effectif suffisant pour faire un grand nombre de croisements statistiques permettant d'étudier la multiplicité des facteurs qui peuvent intervenir dans la socialisation, ou dans la santé, ou dans le développement de l'enfant. C'est la première en France, c'est loin d'être la première dans le monde. En Grande-Bretagne, c'est pratiquement un sport national, la cohorte, dès 1946, on a vu une première grande cohorte sur la population générale se mettre en place. Il y en a eu 5 ou 6 depuis l'après-guerre. Il y a des cohortes qualitatives, il y a des villes qui sont entièrement placées sous cohorte, il y a des suivis de cohortes, de quasi-cohortes par suivi de dossiers administratifs, dans des conditions que la CNIL n'autoriserait pas en France. Mais bref, en Grande-Bretagne, c'est vraiment le pays de cocagne pour les études longitudinales. Cela étant dit, je ne sais pas s'il y a tant de travaux sociologiques qui se sont développés à partir de cette cohorte. Ça reste quand même une enquête plutôt d'épidémio-sociale, avec beaucoup de psycho, de développement, beaucoup de problématiques sociales. Ça vaudrait le coup d'ailleurs qu'on aille voir d'un peu plus près quand même, et qui nous dit des choses sur les différences de développement selon l'origine ethnique, les conditions de vie, etc. Bon, donc il y a quand même des choses, mais disons que le type de questions que nous, sociologues, on peut mettre dans ces enquêtes ne sont pas forcément intégrées à ce type de cohorte malgré tout. Des enquêtes comme celle du Royaume-Uni, il y en a eu également au Canada, aux États-Unis, dans les pays scandinaves, en Australie, hein, c'est les principaux pays, donc des pays plutôt de culture anglo-saxonne. Bon, si on inclut dans les pays anglo-saxons l'Allemagne, c'est plus compliqué en Allemagne. En Allemagne, il y a une cohorte d'importance, mais qui est franchement santé. Et depuis quelques années, l'Allemagne ayant eu des résultats détestables à l'enquête PISA il y a quelques années, la conférence interministérielle des ministères de l'éducation, puisque c'est fédéraliste, a lancé une grande cohorte qui s'appelle la NEPS, c'est un acronyme anglais en fait, et qui, en fait, c'est une cascade de cohortes parce qu'ils voulaient avoir des résultats très rapides. Ils ont commencé une cohorte sur quelques années chez les jeunes, une autre chez les adultes, une autre en CP, une autre dans les kindergarten, et puis la dernière, c'est depuis la naissance. Et donc, en croisant les résultats de ces différentes cohortes, ils vont avoir comme ça une visée longitudinale sur toute l'enfance. Cette cohorte est, elle, totalement science sociale. Elle a des choses très intéressantes du point de vue de la mesure du développement cognitif, de l'étude des conditions sociales et de l'examen des situations familiales, d'une façon telle que ça donne une ampleur d'indices beaucoup plus importante que dans les panels scolaires, par exemple. Ce dont on a essayé de convaincre le ministère de l'Éducation nationale pour qu'il reste, ensuite qu'il revienne, puis qu'ils ne partent pas tout à fait de la cohorte ELF, mais pour le moment, on n'a pas réussi. L'éducation nationale ne participe pas essentiellement pour des raisons politiques, dans la mesure où le milieu enseignant en France est ultra sensible aux enquêtes depuis l'affaire Bas-Élèves, depuis le rapport de l'INSERM sur la détection des troubles précoces. Et donc, le simple fait de parler d'une grande enquête dans laquelle en plus il y a l'INSERM, etc., pour le moment, il n'y a pas eu quelqu'un d'assez courageux au ministère pour assumer, alors même qu'on donne toutes les garanties qui avaient fait, sur les questions qui avaient fait problème dans Bas-Élèves, c'est-à-dire qu'on est, c'est des chercheurs, c'est indépendant, c'est pas une base administrative, c'est un échantillon, c'est pas la totalité de la population, et on ne donnera pas les résultats, et encore moins les coordonnées aux forces de police, bon, enfin, bref. Donc, c'est absurde, c'est la situation de la recherche en éducation en France. On est de plus en plus dépossédé d'un certain nombre d'outils parce que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas suffisamment sans doute autonomisé son dispositif de statistiques, et il avait commencé à le faire dans les années 80-90. Ses services ont été remis sous une certaine dépendance dans les années 2000, les moyens en ont été réduits, et puis il y a eu ces malencontreuses affaires. Voilà, c'est bien dommage. J'y travaille, et je ne désespère pas que le ministère de l'Éducation revienne en ELF, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Le projet a démarré sous l'impulsion de Henri Léridon, qui est un démographe et qui avait l'expérience de grandes enquêtes de l'INED, qui avait travaillé sur la fécondité, sur le désir d'enfants, donc qui était familier des problématiques liant famille, conditions de vie, enfance, et qui avait constaté, c'était des choses qui avaient été bien vues dans certaines études de l'INED, qu'il y avait un manque en France par rapport à ce type d'études longitudinales. Et par ailleurs, il y avait des préoccupations convergentes en épidémiologie et dans un domaine très nouveau, il y a une dizaine d'années, qui était la santé environnementale, à savoir l'étude des effets des expositions précoces aux pesticides, aux rayonnements, etc. Donc l'effet de l'environnement, mais de l'environnement physique et chimique, et non pas de l'environnement social sur la santé. Voilà, donc le choix du coup qui a été fait en France, qui a été discuté au départ, hein, parce que ça pose des contraintes très importantes, c'est le choix d'une cohorte multi, voire omnidisciplinaire. Hein, c'est-à-dire qu'on a de la démographie, de la psychologie, de la sociologie, de l'économie, et toutes les variantes de l'épidémiologie. Voilà, donc ce qui fait qu'il faut, fallait un budget et il faut laisser de la place à chacun dans la cohorte. L'effectif qui a été fixé pour cette cohorte, pour que ça soit d'un financement malgré tout raisonnable, c'était 20 000, ce qui était jugé suffisant pour l'étude de toute une série de pathologies en épidémiologie et pour avoir un effectif suffisant en sciences sociales pour croiser tout un ensemble de facteurs et puis pour prévenir l'attrition qui existe toujours dans ce type d'études hein, et ne pas se retrouver à quelques centaines d'individus à 20 ans, mais toujours à quelques milliers, si possible. Donc cet objectif de 20 000 avait été fixé, le cap de la pluridisciplinarité intégrale avait été fixé lui aussi, et donc se sont réunis un certain nombre d'organismes qui ont porté sur les fonds baptismaux la cohorte. Donc l'ADRES, l'ADEP au départ, du ministère de l'Éducation, l'INSERM, l'INED, le ministère de la Recherche, la CNAF, le ministère de la Culture, l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, etc. Puis j'en oublie. Et c'est ce consortium d'institutions et d'organismes de recherche qui a financé la préparation du projet pendant quelques années, qui a financé y compris l'enquête pilote qui a démarré en 2007. Mais ces institutions n'étaient pas à même de mettre suffisamment d'argent dans cette espèce de tour de table d'institutions, et donc il a fallu trouver un financement au niveau du gouvernement, en fait, puisque les ministères ne suffisaient pas. Et ça a d'abord été financé dans le cadre des très grandes infrastructures recherche. Très grandes infrastructures recherche, c'est ce qui, en sciences dures, finance les projets comme le synchrotron. Mais bon, ce n'est pas quand même le budget du synchrotron, hein, c'est bien inférieur, mais ça faisait un espèce de synchrotron de sciences sociales. Et donc, c'est comme ça qu'on a été financé au départ. Et puis, si vous connaissez un peu les financements de la recherche aujourd'hui en France, comme un projet, un mode de financement en remplace un autre. L'année suivante, on nous a dit, c'était très bien les TGIR, mais maintenant, il faut passer dans le grand emprunt. Donc après, nous avons candidaté d'abord sous la ligne cohorte, puis sous la ligne EquipEx, et nous sommes maintenant un équipement d'excellence porté par une unité mixte de services dont les instances statutaires sont l'INED, l'INSERM et l'EFS, établissement français du sang, ce qui est un peu curieux, mais c'est la condition qu'a mis l'EFS pour être le lieu où seraient déposés les prélèvements biologiques congelés pendant des années jusqu'à ce qu'on les exploite pour les études épidémiologiques. Vous voyez donc, grosse usine à gaz, scientifique, institutionnelle, budgétaire, etc. Dont beaucoup ont pensé que ça ne démarrerait jamais. Ça a démarré. L'appel à projet à participation des équipes de recherche s'est fait en 2005. Moi, c'est là que j'ai rejoint le projet. La cohorte pilote a démarré en 2007. Donc, on avait déjà travaillé sur les premiers questionnaires à ce moment-là. Et on a eu le financement à l'automne 2010. Donc, début 2010. Il a fallu très, très vite mettre au point tous les protocoles qui n'étaient pas complètement finalisés pour démarrer effectivement en avril 2011. Les premières données sont tout juste disponibles. La particularité du même coup, Et quand même, c'est une usine à gaz, c'est compliqué pour des raisons institutionnelles, mais l'intérêt malgré tout, c'est que par rapport aux cohortes étrangères, on est quand même plus en prise avec le milieu de la recherche. C'est-à-dire que l'équipe ELF est une équipe de coordination scientifique, logistique, avec des informaticiens, des spécialistes de la com, des spécialistes de l'enquête, et des coordinateurs scientifiques des différents domaines, des secrétaires, etc. Ça fait une vingtaine de personnes. Mais ce n'est pas les chercheurs qui produisent ELF. Ce ne sont que les gens qui coordonnent le projet. Les chercheurs qui produisent ELF, ce sont des équipes de recherche sur l'ensemble du territoire, dans tous les domaines. Ce qui donne la possibilité d'une certaine ouverture aux thématiques scientifiques émergentes et pas d'être dans une équipe qui fonctionne, disons, sur des routines de recherche ou sur des demandes institutionnelles qui pourraient formater en quelque sorte le projet. Ça rend les arbitrages d'autant plus délicats, mais ça, cette... Et pour que la sociologie de la socialisation y trouve sa place, croyez-moi, ça a été très important. Hein, c'est-à-dire que s'il n'y avait eu que les gens qui avaient l'habitude des grandes enquêtes, moi, je n'avais jamais participé à une grande enquête, mais les gens qui participaient aux grandes enquêtes n'avaient pas forcément les questions de recherche que nous, on avait. Et donc, il a fallu se mettre à l'école les uns des autres pour rentrer dans le format des grandes enquêtes pour les uns et pour s'ouvrir à des thématiques de recherche dont ils n'étaient pas familiers pour les autres. Donc je pense que ça reste quand même une originalité importante du projet. Donc il n'y a pas un projet scientifique dans ELF. Il y a une soixantaine de projets scientifiques qui cohabitent les uns avec les autres. L'objectif était donc de recruter 20 000 enfants. Comment on fait pour recruter 20 000 enfants ? Ben, on fait des estimations. On se dit qu'il va falloir trouver une méthode de recrutement aléatoire qui permette de recruter un échantillon représentatif de la population. Et on estime quelle fraction de la population il faudra trouver pour que ça fasse 20 000, ce qui est évidemment jamais sûr. On ne sait pas combien il y aura de naissances au cours d'une année. On savait qu'il y avait environ 800 000 naissances dans une année. Mais ça varie un peu selon les années. La méthode qui a été choisie, c'est celle de l'enquête en maternité, ce qui n'a pas été toujours simple pour les sciences sociales, ce qui produit quelques biais, mais c'était quasiment obligé pour le volet épidémiologique. Le milieu, bon, d'une part, on trouve des familles qui ont des bébés, donc c'est quand même pratique pour ça. Mais il pourrait y avoir d'autres lieux. Hein. Ça aurait pu être des lieux, ça aurait pu être les salles d'attente, ça aurait pu être le corps médical ou je ne sais quoi. Enfin, bon, on aurait pu trouver d'autres méthodes ou commencer avant la naissance. Bon. L'intérêt de la maternité, c'est non seulement qu'on trouve les gens relativement facilement, même s'ils ne sont pas toujours très disponibles et très reposés dans ce moment-là, mais on les trouve. Et d'autre part, on peut faire des prélèvements biologiques. Donc, pour ces raisons-là, la maternité, méthode qui avait déjà été testée dans l'enquête périnatalité, a été choisie comme lieu de recrutement des familles. Pour trouver la population, le volume de la population que l'on cherchait, on a décidé, on aurait pu dire ça va être toute l'année, par exemple, et on prendra une famille sur 10 ou quelque chose comme ça. Bon. Où on fera la méthode des quotas, par exemple. Donc la méthode des quotas a été écartée, il fallait que ce soit vraiment de l'enquête représentative pur sucre, donc il fallait que ce soit du recrutement aléatoire dans l'ensemble de la population. Donc il ne s'agissait pas d'avoir des quotas, mais bien d'être sur des procédures systématiques. Mais plutôt que de faire un recrutement toute l'année, le choix qui a été fait, ce qui est le cas par exemple de l'enquête épipage, en même temps qu'ELF, a démarré une autre cohorte sur les prématurés, enfin sur les grands prématurés. Donc comme il y a moins de grands prématurés, on vise l'exhaustivité toute l'année. Nous, ça faisait beaucoup trop, donc le choix qui a été fait, c'est de choisir des jours de naissance. Et ces jours de naissance, on contacte systématiquement toutes les familles qui ont un enfant de 0 heure le premier jour à 24 heures le dernier jour. Choisir des jours de naissance, ça permettait en plus de construire la cohorte en tenant compte de deux paramètres importants pour les sciences sociales d'un côté et l'épidémiologie de l'autre. les sciences sociales parce qu'on pouvait se caler, en partie au moins, sur l'échantillon démographique permanent de l'INSEE, qui est une extraction du recensement constituée sur la base d'un certain nombre de jours dans l'année, distribués tout au long de l'année, ce qui nous permettait a posteriori de contrôler la représentativité de l'échantillon ELF, de voir à quel point notre échantillon était biaisé, parce que comme vous pouvez l'imaginer, il est évidemment biaisé du point de vue de son recrutement social. Mais il fallait pouvoir le mesurer, y compris pour pouvoir faire des pondérations, et les démographes, les sociologues s'en fichent un peu plus, mais les démographes, les épidémiologistes sont un peu comme les sociologues, mais les démographes, les économistes, etc., tiennent beaucoup à avoir des chiffres vrais, à avoir des chiffres exacts en matière de représentation des différents types de familles, des différents types de comportements sociaux, etc. Nous, on s'intéresse plus aux corrélations, donc à la limite, bon. Mais pour cette représentativité et pouvoir faire des pondérations statistiques, il était important d'avoir une base statistique de référence, donc c'est l'EDP. D'autre part, ça permettait de situer ces jours de recrutement à différentes périodes de l'année, ce qui permettait, un, d'avoir des périodes de naissance différentes en termes de développement de l'enfant, c'est important. En termes les premières années à l'école maternelle, on sait que c'est un enjeu hein, d'arriver à faire avec des enfants nés en début et en fin d'année. Bon, là, on a des enfants nés en début et en fin d'année. Et puis, pour toute la santé environnementale, les pollens, la pollution, etc., c'est pas la même chose selon les périodes de l'année. Donc, il fallait là aussi avoir de la variation saisonnière. Et donc, c'est cette méthode qui le permettait. Au départ, on pensait faire toutes les maternités du territoire. Vu ce que ça représentait pour l'organisation des camions frigorifiques, toute la logistique d'enquête, les enquêteurs étaient munis de e-books, il y avait les fioles à transmettre à tous les centres, c'était extrêmement compliqué. Donc, le choix a été fait, et puis on savait que de toute façon, dans les toutes petites maternités, ça serait compliqué. Donc le choix a été fait de sous-représenter les petites maternités et de prendre de manière exhaustive toutes les plus grosses qui sont les plus familières de la recherche médicale. Donc, mais c'est un échantillon, hein, c'est-à-dire que ça a été fait là aussi de façon un peu systématique, de telle sorte que ça peut être corrigé en sur-représentant un peu les petites maternités par rapport aux grosses. L'estimation, enfin, pour arriver à 20 000, on a calculé, parce que ça avait été testé dans l'enquête pilote, qu'on atteindrait 50% d'acceptation pour chaque famille contactée. On avait fait un peu plus de 50%, un peu moins de... je ne sais plus. Enfin bref, on n'avait pas tout à fait fait ce chiffre-là dans l'enquête pilote. On espérait qu'avec la politique de com' qu'on a mise en place au moment de l'enquête nationale, on améliorerait. Et en fait, le taux d'acceptation était pratiquement le même que dans l'enquête pilote, comme quoi il y a des régularités sociales. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on atteint 18 320 enfants au lieu des 20 000. Mais c'est déjà pas si mal. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a toute cette réflexion. Moi, pour moi, toutes ces choses-là, c'était vraiment un nouveau langage, hein, mais c'est tout à fait intéressant et tout à fait justifié pour un certain nombre des domaines d'études qui font partie du projet. Alors, je vous le disais, le projet est organisé sur la base des contributions d'une très grande variété d'équipes de recherche, avec des conflits potentiels, des différences d'approche, des concurrences sur les moyens, sur les ressources de la cohorte pour satisfaire les différentes thématiques. Et donc la discussion est en quelque sorte décentralisée dans des groupes thématiques qui ont une certaine cohérence épistémologique où se retrouvent des spécialistes du même domaine qui arbitrent entre eux, qui se disputent entre eux ou qui coopèrent entre eux dans le meilleur des cas et qui s'entendent sur des propositions qui ensuite vont remonter au niveau de la coordination. Donc on a une quinzaine de groupes thématiques, un certain nombre en santé, donc j'en ai mis quelques-uns, croissance, accident, maladies respiratoires, alimentation, et puis d'autres. En santé et environnement, il y en a deux, exposition chimique, exposition physique, et en sciences sociales, ce qui nous intéresse davantage, on en a cinq qui sont des groupes sciences sociales ou mixtes parfois, hein, entre sciences de la nature et sciences de la culture. Donc démographie-famille, où il y a pas mal de démographes et des sociologues de la famille. économie-précarité, où il y a des sociologues et des économistes, ou des démographes, socialisation-éducation, où il y a plein de sociologues de différentes sortes, hein, des gens qui travaillent sur l'éducation, sur le genre, sur la socialisation morale, sur les loisirs, les pratiques culturelles, etc. C'est un peu la grande voiture balai des sciences sociales dans ELF, c'est un groupe assez important, assez nombreux. Le groupe école qui se charge plus spécifiquement, on parle d'éducation dans le groupe socialisation-éducation, mais le groupe école, c'est celui qui essaye de construire les relations avec l'éducation nationale. Et là, on travaille sur un dispositif minimaliste pour le moment de questionnaire à l'enseignant, à partir de la grande section, ce qui pose des problèmes particuliers d'un point de vue méthodologique et diplomatique, etc. Donc c'est un peu la tâche du groupe école. On espère qu'un jour ou l'autre, on pourra organiser des tests en milieu scolaire, comme dans les panels, pour les rapatrier dans la cohorte. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et le groupe développement, qui est un groupe central, puisque c'est ce groupe-là qui détermine les questionnaires, parfois les tests, qui sont utilisés, qui sont un peu standardisés à l'échelle internationale et qui vont permettre de baliser, de mesurer le développement de l'enfant, notamment dans le domaine cognitif, mais pas seulement, au fil des années. Et ben évidemment, mesure du développement qui peut être utilisée par plein de gens dans ELF, hein, d'un côté comme de l'autre, je dirais. Les thématiques du groupe socialisation-éducation qui nous intéressent plus spécifiquement, comme je le disais, elles sont multiples. Elles procèdent non pas du choix d'Henri Léridon, hein, au départ, hein, mais de ce que nous, on a apporté. Hein, c'est les valises que les chercheurs de sciences sociales qui travaillent sur la socialisation dans ELF ont posées dans l'affaire. Évidemment, tout ce qui concerne les pratiques éducatives familiales, le soin, les manières de coucher l'enfant, etc., dans les premiers âges, et puis ensuite les manières de sanctionner, de récompenser, l'organisation du repas familial, enfin tout ce genre de choses, les vacances, etc., etc. Les modes de garde, et puis ensuite la scolarisation, et puis on l'espère, l'expérience, on a commencé à y réfléchir, l'expérience de l'école que les enfants eux-mêmes développent à partir d'un certain âge, les biens culturels et les pratiques culturelles de l'enfant, des parents, donc ça c'est notamment les collègues du ministère de la Culture qui travaillent sur ces questions-là, thématiques moins fréquentes dans les cohortes, des éléments sur les trajectoires sociales, sur les représentations de l'avenir, sur le sentiment de justice, donc des choses qui nous viennent des confins de la socio et de la psychosociale et qui intéressent beaucoup la question de la socialisation morale, mais aussi les valeurs et affiliations des parents, puisqu'ils sont dans des associations, religion bien sûr, ça y est souvent dans les cohortes, hein, mais aussi l'opinion politique, hein, qui m'a valu de nombreuses discussions avec les collègues de ELF tout d'abord, et ensuite une séance plénière de la CNIL pour arriver à les convaincre que demander le positionnement politique des parents, c'était intéressant pour comprendre comment un enfant à 9-10 ans se situait par rapport à l'école, par exemple, et par rapport au jeu scolaire. Évidemment, ce n'est pas l'opinion politique toute seule, c'est la trajectoire de l'enfant, c'est ses pairs, c'est son expérience de l'école, ses socialisations parallèles, les groupes de pairs, le fait qu'il y ait des frères et sœurs. Oui, d'accord, mais en même temps, si on réduit ça à la structure familiale, au niveau scolaire ou à la position sociale, est-ce que ce n'est pas un peu réducteur? Est-ce que Annick Percheron ne nous a pas appris qu'il y avait des valeurs dans les familles et qu'elles n'étaient pas entièrement corrélées au milieu social? Donc si on veut prendre ça au sérieux, c'est important de situer les valeurs. Et l'avantage de l'opinion politique, c'est que c'est un indicateur synthétique, en fait, qui ne suffit pas à lui-même, qui ne se suffit pas à lui-même, qui ne vaut pas tout seul, mais corrélé à d'autres, permet de faire l'économie de dizaines de questions qui vont demander ce qu'on pense de tel sujet, ce qu'on pense de tel sujet, ce qu'on pense de tel sujet. Avec l'opinion politique, on a une variable un peu synthétique. Bon. les identités sexuées, les activités ludiques de l'enfant, bien sûr, le panier de jouets dès 1 an, ce qu'il aime faire, etc., les participations à des clubs, des activités extrascolaires. Et enfin, le sens social, la socialisation politique et morale. Mais ça, Julie Pagis en a déjà parlé la dernière fois. Donc, par exemple, quelques extraits du questionnaire à 1 an posé aux parents. Parents référents, c'est souvent la mère. Ça peut être le père si les parents ont décidé que ce n'était plus, pour cette fois-là, la mère qui répondait, mais le père. Au départ, on avait imaginé dans Elf, on a essayé d'innover là-dessus aussi, un dispositif qui permettait de complètement dégenrer en quelque sorte et de rendre l'approche de la famille totalement égalitaire en proposant de suivre des parents référents et un deuxième parent qui était le parent cohabitant et un troisième parent qui était le parent non cohabitant en cas de recomposition familiale, ce qui nous permettait notamment de suivre les familles recomposées mais aussi les familles homoparentales, ce qui est peu souvent fait dans la statistique publique. En fait, c'est très compliqué. Les familles ont été contactées à la maternité, c'était donc des mères, et donc pendant très longtemps, on a en fait plutôt des mères. Mais on a quand même gardé cette possibilité que ce soit des pères qui soient principaux répondants. On interroge de toute façon toujours les pères aussi, et puis on a fait en sorte que le parent non référent ou le parent référent puisse être de même sexe. Donc on n'a que 16 familles homoparentales, mais c'est déjà ça. Donc, un exemple de questions posées aux parents référents à 1 an. Donc, est-ce que vous faites des petits jeux de cache-cache, la petite bête qui monte, des jeux de construction, une manipulation? Est-ce que vous lui lisez des livres d'images et d'histoire? Faites-vous avec lui des dessins et des gribouillis? Donc, ça, c'est un exemple sur les pratiques éducatives à cet âge-là. Il y a une dizaine de questions, en fait. Autre exemple, là, qui essaye de davantage cerner l'activité de l'enfant lui-même, mais objectivé à travers les jouets dont il dispose. Donc, est-ce qu'il a quotidiennement une poupée, une petite voiture, une balle, des livres, des jeux de construction, jeux d'éveil? Donc, vous voyez les hypothèses qu'il y a derrière qui touchent à la fois à la socialisation de classe et à la socialisation sexuée. Et puis des choses qui relèvent davantage de la sociologie de la famille, des rites familiaux, de l'aspect symbolique, là sur l'anniversaire, sur les rites de naissance. On avait d'autres questions dans l'enquête à 2 mois sur les faire-part, sur ce genre de choses, sur les fêtes de famille, après on a, enfin bon, il y a aussi un certain nombre de questions de ce type-là. Donc voilà, évidemment, je n'ai pas mis les modalités là, enfin, ça y est pour le deuxième bloc, mais c'est ce genre de questions, donc à la fois très proche de nos préoccupations en sociologie de l'enfance et de la socialisation, mais qui restent des indicateurs imparfaits, parce qu'on est dans l'enquête quantitative, on n'est pas... Un autre exemple de ce qu'on a essayé de mettre en place, donc là qui est peut-être plus original, l'enquête ELF, au début, il y a beaucoup d'interrogations des familles. Donc il y a l'enquête en maternité, l'enquête à 2 mois, entrée en force des sciences sociales, l'enquête à 1 an, l'enquête à 2 ans, et ensuite il y avait une enquête à 3 ans qu'on a déplacée à 3 ans et demi pour que tous les enfants soient scolarisés. Et puis ensuite, ça s'espace. Les familles commencent à être fatiguées déjà, et puis les questionnaires, le premier questionnaire à 2 mois dure quand même 1h20, donc c'est quand même pas rien, surtout quand vous avez un bébé qui potentiellement peut se réveiller, se mettre à pleurer, tout ça. On essaye d'alléger les questionnaires, mais c'est très difficile vu le nombre de thématiques. Donc au bout de quelques années, on allège, puis pour des raisons budgétaires, de toute façon, on est forcément limité. Donc ça s'espace. L'enquête suivante, après 3 ans et demi, c'est 5 ans et demi. Et puis après, ça sera 8 ans par là. Donc l'idée, c'est qu'on ait beaucoup d'informations sur la petite enfance et puis après, des points de repère qui jalonneront la socialisation et qui permettront à la fois de suivre l'enfant à chaque âge principal de sa vie, la maternelle, le primaire, le collège, etc. Et en même temps, d'avoir des informations très très riches sur la manière dont l'enfant est arrivé dans la famille, et d'avoir tout ça. Bon. Mais ça laisse des trous. Donc on s'est dit que dans les trous, on pouvait peut-être essayer de faire autre chose. C'est une préoccupation qu'avaient également les collègues qui, parmi nous, s'occupent de la communication et des relations avec les familles, qui avaient envie de faire des événements. Alors on a dit non, pas d'événements, on ne fait pas de communauté Facebook, parce que si les enquêtés se mettent en relation les uns avec les autres, ça peut produire des choses complètement non maîtrisées. Donc, par contre, on peut essayer de faire des choses sympas. Donc on a essayé de faire une page famille sur le site internet. Il y a eu, à quelques mois, un déjeuner, un goûter chez Nathalie Kosciusko-Morizet, bon, qui était intéressée aussi à... Parce que le ministère de l'Environnement, j'ai oublié le ministère de l'Environnement, très important. Ce n'est pas le plus gros contributeur financier, mais politiquement, ça a été un très fort soutien, parce qu'il y avait un enjeu aussi pour le ministère de l'Environnement de dire qu'il faisait aussi de la recherche et que c'était la première grande enquête française et sur la santé environnementale, etc. Bon. Donc très sympa, on a fait venir des familles avec les bébés, photos avec Nathalie Kosciusko, etc. Bon, très bien. Donc il y a eu un peu d'événementiel, mais limité. Donc on a essayé de trouver autre chose, quoi, pour faire du lien et faire des choses plus sympathiques et s'adresser à l'enfant. Et donc nous, sociologues de l'enfance, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un espèce de questionnaire déguisé en jeu qui permettrait, certes, qui ne permettrait pas de contrôler les conditions de passation. C'est pas, on ne va pas faire des tests sur les compétences de l'enfant. Si le parent est à côté de lui et qu'on ne le maîtrise pas, c'est bon. Par contre, sur les goûts de l'enfant, où il n'y a pas d'enjeu de légitimité fort pour les familles, peut-être il est possible de leur faire faire des petits jeux qui nous permettent de cerner à partir de 4 ans, justement, là où il y aura le premier trou dans les enquêtes, peut-être qu'on pourrait essayer par Internet d'envoyer un lien, et quand la famille se connecte sur le lien, eh bien l'enfant peut faire un petit jeu. Voilà. Donc on a fait 3 jeux, on n'en a développé qu'un pour le moment dans le pilote. On espère financer et développer les 2 autres prochainement. Le premier ressemble un peu aux Sims, c'est-à-dire qu'on demande aux enfants de choisir leur avatar dans un premier temps, donc les cheveux, les habits, leur peau, etc. Alors on n'a pas prévu de travailler là-dessus, parce que c'est compliqué, mais si ça donne quelque chose, après tout, ce sera déjà intéressant. Est-ce que les choix en matière de vêtements, de couleur de peau, etc. nous disent quelque chose? Peut-être, on verra. Mais surtout, ce qu'on voulait, c'était qu'il s'identifie à son personnage. C'était vraiment ça qu'on voulait. Et ensuite, ce personnage est mis en situation et va faire un certain nombre de choix. Par exemple, cet enfant, accompagné de la mascotte Elfie, qui lui pose les questions, lui demande ce qu'il a envie de faire le matin. Est-ce qu'il a envie de dormir? Est-ce qu'il a envie de se laver les dents? Est-ce qu'il a envie de déjeuner? Est-ce qu'il a envie d'aller à l'école? Est-ce qu'il a envie de regarder la télé? On lui demande la même chose à l'école, ce qu'il a envie de faire, est-ce qu'il veut jouer avec des copains, tout seul, avec des filles, avec des garçons. Est-ce que à 5 heures, en revenant de l'école, il a envie de avec quel jeu il a envie de jouer? Et puis peut-être qu'au fond, il n'a pas envie de jouer avec ses jeux, peut-être qu'il a envie d'aller regarder la télévision, etc. Vous voyez, des questions vraiment sur les préférences en matière d'activité et de jeu. On est en train d'exploiter les premiers résultats de ce test. Ça a été compliqué parce qu'il n'y avait pas de dispositif technique qui existait pour faire cela. Parce qu'en fait, vous voyez que derrière, en fait, l'enfant peut cliquer sur les bulles. Les bulles là, qui sont en couleur, c'est les bulles qui ont été sélectionnées. En fait, on a mis, c'est comme un questionnaire derrière. Il y a 3 réponses maximum. C'est un choix multiple. Et s'il veut cliquer une autre bulle, il faut qu'il déclique une bulle pour aller cliquer une autre, etc. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas de lecture, donc c'est visuel et audio. Donc quand il passe sur les bulles, enfin, il y a une consigne, quand il arrive sur l'écran, il y a une consigne audio. Et ensuite, quand il passe avec sa souris sur les bulles, il y a une description audio du contenu des bulles. Voilà, on a eu des discussions très longues et très compliquées avec les graphistes qui ne comprenaient pas ce qu'on voulait. Enfin, les carottes, ça sert à avancer et à reculer. Voilà, donc c'est un peu expérimental hein, comme dispositif. Ça a l'air de pas trop mal marcher. On a eu 50% de réponses à peu près, ce qui est à la fois peu, c'est pas si mal. Dès qu'on n'est plus dans l'enquête téléphonique ou dans l'enquête en face à face, en fait, on descend énormément, même pour les adultes. Bon, donc c'est peut-être pas si mal que ça. Bien sûr, on sait bien que les parents à 4 ans, ils vont être là, souvent à côté. Mais ce qu'on voulait, c'est que même si le parent démarre l'ordinateur, etc., voire aide pour la souris, encore que quand on voit les jeunes enfants aujourd'hui, souvent ils sont très habiles, hein, mais bon, que même si le parent était là, la perception soit quand même directe pour l'enfant, qu'il entende et qu'il voit et qu'il puisse choisir en connaissance de cause. Voilà. Donc un exemple de ce qu'on essaye de faire et qui est là très tâtonnant, expérimental. Ça coûte cher pour développer ce test là, ce jeu, c'était 15 000 euros par exemple. Bon, mais c'est beaucoup moins cher qu'une enquête. Une enquête, elle, c'est beaucoup plus que ça. Donc on essaye d'optimiser en quelque sorte aussi les modes d'interrogation pour nous, sociologues, se glisser dans les petits trous laissés par les autres pour profiter au maximum de ces possibilités d'interrogation de l'enfant. Et étant entendu que j'ai déjà fait une heure, là.
Oui.
D'accord. Mais vous pouvez continuer. Donc, je vais dire quelques mots de Génération 2011. Donc, je vous l'ai dit, ça ne me paraissait pas totalement satisfaisant pour comprendre ce qui se passait véritablement dans les familles. Et donc, pour comprendre les questions que se posent les parents en matière d'éducation de leurs enfants, et pas forcément les questions qu'on leur pose, même si on essaye de ne pas trop imposer nos problématiques, mais bon, ils peuvent ne pas se les poser dans des termes standards, on va dire. Mais aussi pour comprendre l'impact particulier de tel espace de vie, de tel moment de la vie, etc., pour voir aussi tout ce qui se joue dans l'organisation matérielle de la maison, ce qui se joue dans les interactions directes, il me paraissait donc important d'aller y voir de plus près. Donc j'ai constitué une cohorte de 50 familles que j'ai été recruté moi-même en m'inspirant systématiquement d'Elfe, à laquelle j'avais déjà pas mal contribué. Donc je n'ai pas collé à des choses auxquelles je n'avais pas envie de coller puisque j'avais participé à leur construction. Mais en essayant voilà, d'avoir des choses dans mes guides d'entretien sur la vie de famille, sur les jeux de l'enfant, sur l'alimentation de l'enfant, sur les trajectoires des parents. J'ai rajouté aussi quelques questions, par exemple sur les grands-parents, la généalogie familiale en quelque sorte, qui n'est pas dans elle. On a les positions professionnelles des grands-parents de l'enfant, mais pas des grands-parents des parents. Hein, donc, les histoires familiales se jouent sur plusieurs générations et peuvent avoir des impacts intéressants à étudier sur la manière même dont l'enfant arrive dans la famille. Bon. Bref, j'ai essayé de m'inspirer de tout ce qu'il y avait dans Elf, y compris en termes de période d'interrogation autour de la naissance, à 2 mois, à 1 an, à 2 ans, etc. Et je me suis efforcé d'avoir la plus grande diversité sociale possible, ce qui n'est pas le choix qu'on fait généralement quand on fait du qualitatif, puisque, en général, on essaye de réduire les variables en prenant un groupe homogène et en faisant jouer d'autres principes de différenciation, où on essaye d'avoir 2 groupes à comparer, 2 groupes un peu standards, les ouvriers, les cadres, par exemple. Moi, je savais que j'aurais, pour les corrélations, j'aurais ELF. Donc, ce qui m'intéressait, c'est, comme je ne savais pas encore, j'avais pour projet d'étudier différentes choses dans les années qui viennent, et je ne savais pas encore quel type sociologique de quel type j'aurais besoin exactement à terme. Donc je me suis dit, le mieux, c'est que j'ai la plus grande diversité sociale possible, peut-être y compris en allant chercher des gens qui sont pratiquement absents d'une cohorte de statistiques publiques, ce qu'on a le plus de mal à avoir, pour vraiment avoir tous les cas possibles, si je veux approfondir tel type statistique, par exemple, et puis aussi pour mieux réfléchir à ce que c'est que la famille à partir de cas très différent des cas modaux, parce que je trouve que la sociologie de la famille en France s'intéresse beaucoup aux cadres, fait comme si les normes des cadres avaient un jour vocation à s'imposer à toute la population. Les démographes, c'est un peu moins le cas que la sociologie de Paris 5, mais quand même, on a tendance à nous dire que tout le monde se met à programmer les naissances, par exemple, ce qui est vrai. Le comportement, la rationalisation des comportements en matière de fécondité, évidemment, si on compare à il y a 50 ans, 100 ans, est très importante. Les ouvriers, aujourd'hui, majoritairement, sont dans des stratégies de différement de la naissance pour avoir la maison, etc. etc. C'est vrai, mais est-ce que toute la population est vraiment là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles familiaux qui continuent de fonctionner? Donc, cette question de la diversité me préoccupait aussi en ayant en tête cette spécificité de la sociologie de la famille française qui est un peu pauvre du point de vue de la diversité sociale. Évidemment, si on lit Olivier Schwartz, si on lit des travaux monographiques sur certaines populations ouvrières, etc., on a des choses, mais pas forcément avec les questions que nous, on se pose. Donc, voilà. Donc j'avais tout ça en tête. Et donc, je me suis mis en tête de faire quelque chose d'un peu standardisé, c'est-à-dire en multipliant les interrogations systématiques, en ayant des guides d'entretien assez précis pour aborder quand même un certain nombre de questions, y compris j'ai injecté dans mes guides d'entretien des bouts de questionnaires, quand il s'agissait d'avoir des trucs un peu objectivants sur le développement de l'enfant, par exemple, ou sur les représentations sociales, bon. Mais aussi en me disant que j'allais complètement adapter à la situation, parce que de toute façon, je me mettais dans une enquête longitudinale, et que ma priorité des priorités, c'était de fidéliser les familles, de nouer une relation de confiance, et de m'adapter aux conditions de vie des familles, et donc en ayant des protocoles un peu standardisés, et en même temps, en les défaisant chaque fois que nécessaire, et en me disant, bah, si je ne peux pas tout voir à la première visite, je verrai à la deuxième ou à la troisième, et ça sera toujours intéressant. Et de fait, j'ai des relations avec les familles relativement différenciées. Ça m'a aussi permis, du même coup, de collecter un certain nombre de matériaux complémentaires de ce que j'ai dans l'entretien. Certes, le protocole principal de référence est un guide d'entretien, mais j'arrive dans la famille, j'y suis accueilli d'une certaine manière, je prends contact avec la famille. Et puis, comme dans ELF, j'envoie des petits cadeaux d'anniversaire, j'ai une newsletter... J'ai des parents qui m'envoient des nouvelles éventuellement à l'occasion. J'ai été invité à un baptême, etc. Donc évidemment, je vois les appartements. Éventuellement, quand les parents s'absentent quelques minutes, je fais même quelques petites photos dans l'appartement, etc. Donc j'ai évidemment des matériaux beaucoup plus larges que l'entretien lui-même. Donc par exemple, là, en haut à gauche, c'est une photo. Alors oui, je n'ai pas décrit ma population. Je sais que je vais aller vite. Donc, en fait, comment j'ai fait pour recruter mes familles? Je suis allé dans des maternités et des PMI pour à peu près 35 familles. Ah ben, c'est que je l'explique à la diapo suivante, mais ça, je l'explique tout de suite, ça vaut mieux. Je me suis dit, d'abord, je vais essayer de garantir la diversité, sinon la représentativité, en tout cas garantir un recrutement un peu aléatoire, sans interconnaissance, etc. Donc, j'en ai à peu près 35 comme ça, par des maternités ou des PMI. Alors, dans les maternités, j'ai quand même varié. J'ai pris des services de grossesse pato, de suite de couches, des séances de préparation à la naissance, où j'ai fait un peu d'observation participante aussi, pour voir ce que racontaient les sages-femmes aux futures mères. Puis du coup, ben, là, je prenais des contacts et après, j'allais voir les mères. Pareil, dans les services de grossesse pato, je faisais une interview. Elles sont immobilisées, elles n'ont rien à faire, c'est pratique. Et après, je reprenais rendez-vous quelques mois après, suite de couches. Bon, là, ils sont très occupés, mais ça permet d'avoir des parents standards. Et je faisais un interview très court, là, dans ce cas-là, et puis je retournais chez eux quelques temps après. PMI, salle d'attente, c'est compliqué. J'entendais parfois ce qui se passait derrière la porte, c'était intéressant. Je voyais l'affichage, bon, donc un peu d'observation. Et puis après, je prenais rendez-vous et je faisais un vrai entretien à domicile. Voilà, donc... Mon enquête a eu d'emblée un tour assez ethnographique de par le fait que j'ai multiplié les conditions de prise de contact. Et puis donc après, voilà, j'ai ajouté pour les 15 restants, pour aller à 50, des familles très atypiques. Donc là, j'ai contacté des réseaux de pratiques alternatives type aptonomie, des sages-femmes qui étaient réputées pour avoir des méthodes douces, où les papas venaient aussi, et on faisait du yoga avec un peu d'encens, etc. Ou aptonomie, etc. etc. Bon, j'avais plein d'amis qui étaient dans ces réseaux-là, ça tombait bien. Et à l'inverse, par l'intermédiaire des Pinsons Charlot, j'ai contacté un certain nombre de familles dans le 16e arrondissement de Paris, avec des particules, etc. Parce que ces familles-là non plus, on ne les voit jamais dans les grandes enquêtes. Donc, et pour réfléchir à ce que c'est que la famille, je pense que c'est aussi important de ne pas toujours penser que les classes supérieures, c'est les classes cultivées, c'est nous. Les classes supérieures, c'est aussi le pôle économique, c'est aussi les gens qui sont dans la finance, c'est aussi des gens qui sont des entrepreneurs, etc. Et on a parfois un peu tendance à l'oublier quand on étudie la hiérarchie sociale, en faisant comme si elle se situait sur un axe unique, en quelque sorte. Bon. Voilà. Et puis, enfin, j'ai contacté des familles homoparentales par l'intermédiaire de l'association des parents gays et lesbiens. Donc, j'ai 5 familles homoparentales. Parce que là aussi, s'interroger sur la transmission des rapports de genre, c'est intéressant quand, de manière un peu expérimentale, on a un couple de même sexe qui se partage les tâches et qui, de fait, et c'est extrêmement intéressant, a une complémentarité des rôles extrêmement marquée à l'intérieur du couple, ce qui évidemment interroge complètement différemment ce qu'est la complémentarité du rôle de l'homme et de la femme dans un couple hétéroparental. Donc voilà, donc j'ai des matériaux un peu diversifiés, où on voit les gens en situation, le papa là qui donne le biberon pendant l'entretien, les autres c'est des ouvriers au chômage dans une petite ville de Picardie en plein déclin industriel. Donc l'entretien à la maternité tourne essentiellement sur des questions industrielles. Bon, c'est un des seuls entretiens qui est comme ça. Celui d'à côté, bon, à un moment donné, bon, j'ai un documentariste qui m'a suivi sur une partie des entretiens. Donc, une partie des images vient des films, en fait. Celle d'en haut, c'est un peu différent. C'est que, comme je n'avais pas filmé tout le monde, j'avais du mal à me rappeler. Donc, j'ai demandé à un an, quand la confiance était à peu près établie, à faire une petite photo pour mon trombinoscope. Donc, du coup, ça donne lieu à une certaine mise en scène de soi, de la part des couples. Donc, vous voyez ce couple d'ouvriers du Poitou avec leur bébé. En haut à gauche, c'est un peu différent. Ça, c'est une photo volée du grand mariage, de la grande famille dans le 16e. Au milieu, là, c'est les plaquettes. Alors, je les ai récupérées, les plaquettes, bien sûr, hein, mais pour avoir un peu en tête, j'ai pour projet d'analyser un jour aussi les aspects normatifs, tout ce qui se transmet dans les institutions d'encadrement des familles. Et donc, voilà, dans les PMI, l'hôpital. On peut voir les affiches d'incitation à l'allaitement, par exemple, qui sont très fortes aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, par exemple. Et si on fait parler les parents ensuite de quels choix ils font en matière de soins, évidemment, c'est important d'avoir en tête les normes qui leur ont été transmises dans les institutions qu'ils ont fréquentées, qui ne sont pas exactement les mêmes selon les maternités ou selon les institutions d'encadrement de la vie de famille. Au milieu, c'est le baptême où j'ai été invité. Donc là, évidemment, j'ai des heures de vidéos sur... c'était un baptême extrêmement mis en scène, etc. Donc bon, je ne peux pas rentrer dans les détails. Bon, les dragées, les faire-part, les coins d'exposition de photos de famille sur les étagères. À gauche, c'est un autre type de faire-part. Là, c'est un faire-part de naissance d'un deuxième enfant chez une famille de punk avec qui j'ai un peu plus sympathisé. Donc, vous voyez à quel point la présentation de soi d'un enfant peut très précocement être très différente d'une famille à l'autre. Donc, c'est quand même pas inintéressant. Voilà. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. Je ne peux pas trop développer. À un moment de l'enquête, j'essaye d'introduire l'enfant, et plus précocement qu'on le fait dans ELF, hein, où l'accès à l'enfant, on essaye. Il y a un test lors de l'enquête. À 3 ans, dans ELF, on va dans les familles. C'est la première fois qu'on va dans les familles. Et donc, dans les familles, il y a un test cognitif avec l'enfant sur les habiletés logiques. Et puis, il y a des prélèvements, il y a un test visuel, auditif. Et puis, il y a des prélèvements de poussière, de pipi, etc. etc. Ensuite, dans ELF, on espère interroger l'enfant vers 8 ans. Donc, moi, j'essaye d'utiliser ma propre cohorte pour interroger l'enfant beaucoup plus tôt. Hein, et faire des choses, évidemment, c'est sur 50. Mais si je peux situer mes 50 par rapport aux autres, je pense que ça m'apportera beaucoup de choses. Donc, du coup, j'essaye de commencer des choses le plus tôt possible. J'ai commencé à 2 ans avec des Playmobil. Et donc là, c'est une étudiante qui m'accompagne. Et donc, bon, j'informe les parents à l'avance, etc. Comme la mise en confiance maintenant est suffisamment bien faite, j'introduis une caméra. Et donc, on met d'abord en contact la mère, l'enquêtrice et l'enfant. Ils commencent à jouer avec les jeux de l'enfant. Ensuite, on sort du sac les Playmobil, qui sont la représentation de l'espace familial, cuisinière, canapé, etc., télé, etc., etc. Et on essaye de jouer dans un espace familial symbolisé avec l'enfant. Et puis ensuite, j'espère pouvoir introduire d'autres dispositifs du même type. Et puis peut-être vers 5 ans, commencer quelque chose qui ressemblerait à une interview. Voilà. Donc ça, c'est les Playmobil. Dans une famille, encore d'un autre type, donc ça, c'est à Aulnay-sous-Bois. C'est une famille d'origine marocaine, naturalisée française, très républicaine, très chevènement, quoi, très... qui critique la racaille, etc., etc., et très musulmane en même temps. Le papa travaille dans un resto dans le 4e, donc il a des parents gays, enfin voilà, c'est un mélange très intéressant. Et donc la petite fille qui baigne dans l'univers un peu traditionnel de la famille et le Hello Kitty complètement avec les catégories ultra genrées qu'on a aujourd'hui dans les produits pour les enfants. Et qui a bien joué, ma foi. Parce que ça ne marche pas toujours, notre affaire. Hein. Une fois sur deux, ça ne marche pas en réalité. On s'est dit, tant pis, on continue. Parce que, toujours pareil, ça ne marche pas, mais il se passe quand même quelque chose. Et comme on pourra comparer avec la fois suivante, où là, on espère que cette fois-ci, ça marchera, eh bien, l'émergence des premières bribes de langage dans le flot de communication avec l'enfant, l'émergence d'une certaine appréhension de la réalité familiale, bon, ça, c'est, on voit beaucoup moins de choses de ce point de vue-là, mais bon, un petit peu quand même, va te coucher, etc., sois gentil, et tout. Des fois, là, il se passait des choses, par exemple, de ce type-là. On pense que comparativement, ça nous donnera quand même quelque chose. Même si ce n'est pas très facile pour les agendas de trouver un rendez-vous avec les parents, l'enfant, l'étudiante et moi, dans des endroits qui sont distants de 500 km. Voilà, ça c'est les thématiques sur lesquelles du coup je travaille actuellement. Mais j'y reviendrai, j'étais trop long, je crois. Et voilà, c'est terminé.
Okay, merci beaucoup pour la présentation de ces deux enquêtes en une. Enfin, donc, on a maintenant à peu près 40 minutes disponibles pour des questions dans la salle, si vous en avez.
Oui, merci pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. Juste une petite précision au niveau de la méthodo, c'est comment vous parvenez aussi bien dans l'enquête ELF que dans l'enquête Génération 2011 à convaincre les familles d'accepter, parce que le taux est quand même de 50%, ce que je trouve assez important. Ça se fait à la maternité, je me dis que ce n'est pas le moment où on est le plus à même de vouloir répondre à une enquête, enfin, ils ont quand même d'autres préoccupations. Et donc du coup, quel est l'argumentaire, comment les enquêteurs sont formés, pour comment vous parvenez à ces bons résultats, parce que c'est quand même aussi c'est et des questionnaires et apparemment des prélèvements pour d'autres à différents moments. Et voilà, je trouve que c'est du coup assez lourd, c'est quand même une ingérence dans les familles et voilà.
C'est un des problèmes majeurs, hein, et qui est vrai dans toutes les cohortes, mais qui est encore plus fort dans le cas de la cohorte française, pour deux raisons, la sensibilité du pays, la question des libertés, etc., etc., ce qui n'est pas critiquable en soi, mais bon, ce qui est un fait, et parce que enfin, c'est hallucinant, hein. Vous allez en Scandinavie, j'ai parlé de la Grande-Bretagne, mais en Scandinavie, ils font des enquêtes quasi entières en croisant tous les fichiers quoi, administratifs, bon. Voilà, donc on n'a pas les mêmes habitudes, hein, tant mieux peut-être, hein, mais voilà. Donc ça c'est la première raison. La deuxième, c'est la multiplicité des choses qu'on demande aux familles, effectivement. Donc ce qui a été fait, qui n'a pas trop mal marché, mais même si c'est un objet de débat entre les équipes, il y a trop de choses, on fait trop de choses, c'est pour ça qu'on a déjà un peu trop d'attrition, etc. Ce qui a été fait quand même, et les taux du coup d'attrition sont comparables aux enquêtes épidémiologiques habituelles, hein, donc c'est correct. Ce qui a été fait, c'est une grande politique de communication d'abord. Donc la CNAF a envoyé, avec le livret de paternité, je crois, enfin à 6 mois, une lettre à toutes les familles qui allaient avoir un enfant en 2011, une lettre présentant ELF, pour qu'il y ait une familiarisation. Dans toutes les salles d'attente des maternités de France, il y avait des affiches et des plaquettes qui présentaient ELF pendant toute l'année 2011. Les médecins ont été prévenus. Il y a eu des campagnes de presse grand public avec on a eu une agence de com, en fait, qui a travaillé pour ELF au départ, qui a fait que ça a généré des tas d'articles, et y compris le truc de Kosciusko Morizet, c'était pas mal pour ça. Hein. C'est que il y a eu plein d'articles à ce moment-là dans la presse qui disaient du bien de l'enquête, hein, Donc, il y a eu des articles dans Le Monde, dans Libé, dans Le Figaro, dans le quotidien du médecin, dans des journaux spécialisés pour les sages-femmes, etc. Donc, il y a eu une enquête qui a arrosé large sur la population et en même temps qui a visé des canaux spécifiques pour sensibiliser les professionnels qui eux-mêmes pouvaient être des relais de l'enquête. Donc ça, c'est une des premières choses. Ensuite, en maternité, rebelote, il y avait une petite plaquette qui présentait, assez jolie, quoi, qui présentait de manière assez simplifiée tous les objectifs de la cohorte. L'importance des enjeux écologiques aujourd'hui, l'importance des questions sur la violence, l'exposition aux médias, l'école, etc. Enfin, sur les enjeux, je ne dis pas qu'on a mis socialisation morale, par exemple, dans la plaquette, mais il y avait des choses un peu comme ça, un peu qui parlent aux gens. Bon. Il y avait un petit cadeau. Il y avait, c'est symbolique en fait, hein, mais c'était un lange bio. Moi, j'aurais pas mis ça, mais voilà, c'était très bien, hein, mais c'était pour symboliser la préoccupation un peu écolo de l'enquête. C'était pas très parlant pour les classes populaires, selon moi, mais voilà, mais très bien. Après, on a plus discuté des cadeaux suivants. Voilà, il y avait tout un accompagnement. Ensuite, les enquêtrices. Donc, c'est en fait, on a recruté une vingtaine de coordinateurs régionaux à plein temps pendant un an, qui eux-mêmes, parce que les enquêtes téléphoniques, on n'a pas d'équipe assez importante, c'est très très lourd hein, de diriger soi-même une enquête. Donc, au départ, ça devait être l'INSEE même qui devait le faire, et puis ça, comme l'enquête a été reportée, l'INSEE a été délocalisé. Enfin bon, bref, l'INSEE est sorti. Les autres enquêtes maintenant sont confiées à un organisme d'enquête par un marché public. Mais l'enquête en maternité, c'est nous qui l'avons organisée. Donc il y avait recrutement d'enquêteurs permanents, coordinateurs régionaux, qui eux-mêmes ont recruté des enquêteurs ponctuels, qui étaient recrutés environ 15 jours, 3 semaines, autour des périodes de recrutement. Le plus souvent, c'était des sages-femmes. Il fallait en tout cas que ce soit des gens qui connaissent bien le milieu médical, qui connaissent bien les problématiques de la naissance. Il y a eu quelques étudiants sociaux également, des gens qui avaient une formation de psycho, c'est arrivé, des gens qui avaient pratiqué d'autres enquêtes, mais qui n'avaient pas forcément une spécialisation dans ce domaine. Mais ils avaient tous, et puis la grande majorité, c'était des sages-femmes, qui ont l'habitude de participer à des enquêtes épidémiologiques, donc était un public assez, pas conquis d'avance, parce qu'il a quand même fallu convaincre sur elle. Enfin, c'était une enquête un peu inhabituelle aussi pour le milieu médical, mais parce qu'il y avait toutes les sciences sociales notamment. Mais ça a quand même joué un rôle très important parce qu'elles connaissent les lieux, parce qu'elles savent faire, elles savent parler aux familles. Et donc c'est elles qui sont allées dans les chambres. Enfin, le protocole était le suivant. En salle de naissance, où il fallait quand même faire des prélèvements, quand la femme était éligible à ELF, c'est-à-dire que ce n'était pas un grand préma, on faisait des prélèvements. Si la mère donnait son accord pour qu'il y ait des prélèvements pour de la recherche, on faisait tout de suite les prélèvements. Et on les mettait de côté. Et puis ensuite, on allait dans les chambres, et là, les sages-femmes donnaient les plaquettes, revenaient, discutaient, revenaient plusieurs fois, rencontraient également le père, etc., jusqu'à convaincre la famille. Et là, une fois qu'on avait les consentements sur l'ensemble du protocole, sur les prélèvements, sur la participation à l'enquête, etc., après, on pouvait conserver les prélèvements et les apparier avec les questionnaires qui étaient passés. Donc ce dispositif qui a beaucoup de contraintes et le fait notamment qu'on ne soit pas allé chez les gens, il y a eu un certain nombre de, ça a posé un certain nombre de difficultés par ailleurs, permettait quand même une prise de contact dans des conditions relativement favorables. Et puis très vite, il y a eu des lettres d'infos qui ont été envoyées. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas leur donner de résultats pour le moment. Mais on donne les résultats du pilote, on explique ce que font les gens, les questions qu'ils se posent, il y a des interviews de chercheurs, des choses comme ça, bon, ce qui contribue à maintenir un peu l'intérêt pour l'étude. Voilà. C'était un peu pareil, je m'en suis inspiré, j'avais une petite plaquette que je laissais dans les chambres, etc. Évidemment, je n'avais pas la lettre de la CNAF, je n'avais pas tout ça. J'avais quand même le contexte d'ELF, j'ai cité ELF à chaque fois que je pouvais, que ça pouvait être utile. Là où ça a été le plus dur, c'est pour les entretiens filmés, donc là j'ai perdu vraiment des gens. Mais pour les autres, j'ai réussi à convaincre, y compris des gens qu'on n'a pas dans Elf, hein, des grossesses précoces, par exemple, mais que j'ai perdues depuis. Donc, le bottin mondain, bah, c'est parce que la directrice du bottin mondain avait dit que, qu'elle me soutenait, etc. Donc, voilà, la PGL, j'avais la bénédiction de Martine Gross qui drive tout ce qui est recherche dans les familles homoparentales. Voilà. Mais le tout venant, disons, c'était... C'était un travail de conviction, quoi. J'ai essayé d'expliquer que ça serait dans le respect de l'anonymat, mais que bien sûr, bah, ça serait suivre l'enfant, mais qu'après ça s'espacerait, qu'on leur donnerait des nouvelles, que c'était intéressant de suivre l'enfant, qu'on ne le faisait jamais, qu'on ne s'intéressait pas forcément au point de vue des parents sur les enfants. Enfin, voilà, j'ai essayé de jouer sur des tas d'arguments un peu comme ça. Et en y allant, en y retournant, moi j'en ai eu à peu près un sur deux également qui ont accepté dans cette partie tout venant.
Moi j'ai une question plutôt sur, vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect pluridisciplinaire de cette enquête et vous avez même parlé d'omnidisciplinarité. Donc j'ai deux questions. D'abord, est-ce que c'est pas un peu préjudiciable quel est l'intérêt au final de s'inscrire dans une enquête comme celle-ci, sachant qu'il y a toutes les questions sur la santé qui ne sont peut-être pas directement en lien, et que, comme vous l'avez dit, c'est une enquête lourde. Enfin, au final, les parents, voilà, ça fait beaucoup de questions sur des choses qui ne sont peut-être pas mises en lien. Et ensuite, justement, quel lien vous comptez faire avec les autres disciplines? Parce que vous avez beaucoup parlé des questions sociaux, justement, de mettre en place des espèces de dispositifs de type sociaux avec les jeux sur l'enfant, tout ça. Et pourquoi pas avoir fait le choix de mettre en lien les variables obtenues à partir des éléments sociaux que vous avez présentés sur les attitudes des parents, tout ça, enfin tout ce qui peut être explicité d'un point de vue sociaux, comme vous avez présenté la diapo tout à l'heure sur toutes les questions des choix politiques, des questions morales, enfin tout ça, sur ces choses-là. Pourquoi pas avoir fait le choix d'essayer de les mettre en lien avec des choses qui auraient été peut-être plus psycho, parce que justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les psychologues ont des techniques et des moyens d'appréhender l'enfant que le sociologue n'a pas forcément, et que donc vous essayez, vous, enfin, justement en proposant des jeux, toutes ces procédures-là qui sont intéressantes, mais qui en soi sont un peu nouvelles et inconnues. Pourquoi pas faire le choix? Enfin, j'ai l'impression dans ce que vous avez présenté qu'il y a peu de liens qui sont faits avec les groupes ou les institutions plus psycho. Ouais.
C'est un effet de présentation, puisque la colonne vertébrale d'ELF, c'est le développement de l'enfant. Donc forcément, il y a toute une série de questions qui prennent parfois pas mal de place, qui essayent, c'est du questionnement indirect hein, souvent, mais testé, validé dans le cadre des protocoles internationaux, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas les changer. Donc, alors que les questions des sociologues, on peut les découper comme on veut. Donc il y a ce qu'il faut. Hein. Il y a beaucoup de questionnaires qui portent sur le développement de l'enfant. Des questionnaires standardisés, il y a notamment le CDI, le Children Development, je sais pas quoi. Il y a le BAS, le British Ability Scale, qui est un instrument international de mesure du développement de l'enfant. Il y a le test MacArthur à 2 ans sur le lexique de l'enfant, qui donne à partir de connaissances qu'on a sur les 100 mots les plus courants à cet âge-là et qui permet d'avoir une mesure assez fidèle du degré de développement de langagier de l'enfant à 2 ans, au moment où il commence tout juste à, enfin, juste avant l'explosion verbale, quoi. Bon. Donc il y a de la psychologie dans ELF. Hein. Il y a des collègues de Lyon qui sont notamment Magnan, Annie Magnan et Jean-Yves Cal, Sophie Kern, spécialiste du langage, et puis Agnès Florin, spécialiste connue du développement de l'enfant. Il y a tout un tas d'autres équipes. Donc il y a des psychologues et il y a des outils. Moi j'ai insisté, parce que je suis sociologue, sur les outils qu'on a essayé de mettre et qui ne sont pas souvent dans ces enquêtes-là, qui sont très psycho et qui, justement, font comme si l'approche psychologique de l'enfant était suffisante, faisant comme si les comportements, les mécanismes standards qu'on étudie sur 50 enfants, le plus souvent, valaient pour l'ensemble de la population, ce qui, je crois, est faux. Donc, pour tester cela, il nous fallait les tests de psycho, mais ils y sont. Simplement, il nous faut, à côté, tout un panorama sur les pratiques familiales, les opinions, les manières de faire, la biographie des parents, l'activité de l'enfant, le point de vue de l'enfant. Et moi, ce que je mets en place dans mon enquête à moi, dans mon enquête à 3 ans et demi, par exemple, je vais reprendre exactement le test de psycho qui est fait dans l'enquête ELF. Je reprends que celui-là, parce que je ne veux pas être plus royaliste que le roi. Si ça suffit au psychologue, ça doit bien me suffire à moi. Donc là, c'est le Picture Similarities du British Ability Scale qui permet de tester les aptitudes logiques de l'enfant à 3 ans et demi. Et que moi, je vais croiser avec mon truc un peu plus informel, etc., qui permet d'avoir du langage en situation et pas du lexique standardisé, des énoncés qui permettent de retrouver la manière dont l'adresse d'un enfant à ses parents dit déjà beaucoup de choses sur la manière dont il catégorise lui-même spontanément le monde social. Donc je suis absolument persuadé de la complémentarité des disciplines. J'ai simplement présenté les outils plus nouveaux et qui me sont plus personnels pour compléter ce qu'est la vision habituellement plus standardisée du développement de l'enfant. Je suis maladroit en le disant comme cela, c'est pour me faire comprendre, dans la mesure où précisément ceux qui sont dans les cohortes, en général, sont les psychologues les plus attentifs aux différences sociales du développement de l'enfant. Hein, donc, et justement, toute l'épidémiologie sociale se préoccupe des déterminants sociaux de la santé et du développement de l'enfant. Donc, vous voyez, donc ce serait injuste de stigmatiser les tests à 50, etc. Ce qui se pratique quand même beaucoup dans les campus français où, à mon avis, on sait tout de la psychologie des enfants d'enseignants. Bref, donc c'est simplement cette petite... voilà. Mais ce n'est pas le cas dans les études sur cohorte. Malgré tout, ces enquêtes, souvent... manque un peu d'imagination sociologique, parce que c'est des gens qui sont dans des protocoles, des équipes, dans des logiques d'institutions qui n'ouvrent pas à des problématiques. Voilà. Donc, petit effet de présentation,
je pense.
Je
suis parfaitement d'accord avec vous sur ce que vous venez de dire. C'était justement juste que je trouve que c'est une enquête en soi, justement, parce qu'elle intègre...
Oui, je n'ai pas répondu à la première partie de la question.
Parce qu'elle intègre les sociologues, elle est éminemment riche et que... Voilà, est-ce qu'après, il n'y a pas un recloisonnement disciplinaire au sein de cette enquête ? Parce que, voilà, c'était juste...
Ah oui,
j'entends bien que dans votre enquête, ça, c'est une, que vous allez faire, voilà, c'était juste...
C'est une affaire compliquée. Pour des raisons économiques, parce que l'enquête a failli ne pas se faire, nous sommes un certain nombre à avoir spéculé sur son explosion. Hein. On aurait bien aimé, pour un certain nombre d'entre nous, à un moment donné, qu'il y ait une séparation entre la santé et les sciences sociales et humaines. Parce que sinon, il nous semblait qu'on n'y arriverait pas, hein, qu'il y avait trop de choses. Mais c'est qu'on n'a pas eu le choix. C'est que le financement de cette enquête n'a pu se faire que dans ces conditions-là. Henri Léridon l'avait conçu comme ça. Peut-être qu'un autre ça aurait peut-être pu se faire autrement, mais tel que ça avait été engagé, et le soutien qui a été obtenu des institutions, a été sur la base de ce projet multidisciplinaire. Bon, ça, c'est la première réponse. Donc, moi, je n'ai pas choisi ça. Hein. À un moment, j'ai spéculé avec d'autres sur le fait que peut-être que CNAF, ministère de la Culture, ministère de la Recherche, ministère de l'Éducation, ça serait plus cool que INSERM et tout. En plus, moi qui m'embêtais ensuite pour aller négocier avec l'éducation. Bon, voilà. Après, j'ai découvert les gens de l'INSERM. Donc, je vais vous en dire deux mots. Il y avait un autre aspect dans cette affaire-là, c'était l'affaire du côté Big Brother. On avait très peur d'une campagne type bas élèves, etc., hein, au démarrage de ELF. Et puis, de toute façon, la CNIL, elle, nous autorisait, mais dans des conditions particulières. La CNIL ne nous autorise, et encore maintenant, pour le moment, ce n'est qu'au compte-goutte, qu'à donner des bases restreintes. Il est hors de question, comme on le fait dans d'autres enquêtes publiques, de donner aux chercheurs la totalité de la base de données. Parce que, au nom de quoi, on donnerait... l'ADN, la position politique, le niveau de langage de l'enfant, et que sais-je encore, au nom de quoi et avec quel risque, par recoupement d'informations, de pister les gens. Donc voilà, donc la CNIL y est de toute façon, par principe, très hostile. Et moi, j'avoue que ça me met assez à l'aise, parce que ça me permet d'expliquer qu'il n'y a pas de savant fou dans ELF, qui a l'intention de croiser des choses totalement improbables et qu'on a des bons vieux sociologues, des bons vieux démographes, des bons vieux épidémiologistes et que c'est très bien comme ça, et que chacun fait son métier et le fait très bien. Cela étant dit, j'ai donc découvert les gens de l'INSERM. Je suis dans un projet actuellement pluridisciplinaire sur l'alimentation du bébé, où on étudie les déterminants sociaux de l'allaitement, parce que les épidémiologistes peinent à aller plus loin dans l'explication. Ils disent en gros, c'est le niveau de connaissance qui détermine toujours cette fameuse hiérarchie sociale unique, voilà, unidimensionnelle. Bon. Est-ce qu'il n'y a que le niveau de connaissance? Même quand on informe les femmes de milieux populaires, elles restent quand même plus souvent au biberon. Mais pourquoi? Est-ce que vous, sociologues, vous pouvez nous apporter des outils supplémentaires? Ben oui, nous on pense que le rapport aux normes, c'est quelque chose qui doit être pris en compte parce que c'est un élément de résistance au savoir savant. Et pas simplement des gens qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins appris, qui sont plus ou moins sachants. C'est aussi des gens qui, de point de vue de leur identité sociale, résistent à l'imposition de certaines normes. C'est des femmes de milieux populaires qui ne veulent pas être prises, je cite, pour des vaches laitières. Parce que l'idée qu'elles se font du corps de la femme, de la séduction, du maintien de leur statut de femme après la maternité, suppose de retrouver très vite un corps de femme qui ne soit pas un corps où la poitrine s'expose et est déformée, etc., etc. C'est aussi les conditions idéologiques, à mon sens, donc j'ai l'intention de tester ça en croisant religion et politique quand j'aurai la variable politique, malheureusement c'est pas tout de suite, parce qu'on est obligé de reporter la variable à l'enquête à 2 ans avec tout ça, mais bon, le jour où je pourrais le faire, je le ferai, mais on a quand même d'autres valeurs, donc bon. Parce que je pense que selon le degré de conviction environnementale, écolo, etc., ben la sensibilité à l'intérêt de l'allaitement maternel n'est pas du tout la même. Et donc, ce n'est pas qu'une question de savoir, c'est aussi une question de conviction et d'ancrage. Les femmes à la maternité peuvent se laisser convaincre d'allaiter, et puis parce que c'est très dur, et ben quelques semaines après, ça ne marche plus. Et puis quand ça ne marche plus, eh bien, on est moins disposé à continuer si on n'a pas un ancrage très fort, parce que c'est un enjeu pour soi de réussir par rapport aux copines écolos, d'avoir réussi à allaiter son gamin, etc. Voilà. Et en plus, tout l'entourage familial dans les milieux populaires dit mais qu'est-ce que tu fais là, etc. Le biberon, c'est très bien, etc. Et puis, dans les classes supérieures, moi, je vois bien que mes femmes que j'ai recrutées là, par le bottin mondain et d'autres, qui ont des caractéristiques analogues dans les milieux plutôt entrepreneurs, etc., sont tout aussi au biberon que les femmes de milieux populaires. Donc on voit bien que c'est bien le rapport au savoir, le rapport à la culture, le rapport à la culture légitime qui joue un rôle. Voilà. Donc je pense que c'est de nature à enrichir ce que font les épidémios, mais elles, c'est les femmes, elles travaillent en même temps dans le même projet, c'est une ANR, voilà. Donc oui, il faut travailler avec les autres disciplines, simplement sur des problématiques spécifiques, sur des problématiques restreintes, et en faisant un panier de données bien particulier qui se justifie par ce projet-là. Et c'est important qu'on donne quand je dis plateforme de service, des projets les uns à côté des autres, c'est quand même important pour... la communication qu'on fait sur le projet pour pas qu'on donne l'impression que c'est Big Brother, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Mais on a le souci, Marie-Aline Charles, qui est donc directrice, qui dirige avec moi le projet, qui est épidémiologiste, dans quelques temps, dès qu'on sera un peu la tête un peu au-dessus du guidon, de développer des séminaires pluridisciplinaires pour croiser et susciter de nouveaux projets sur des questions émergentes qui permettent, et pas que sur l'allaitement, quoi, de susciter d'autres projets. On a l'intention de le développer, en tout cas. On n'est pas contre. Hein. Donc là aussi, c'est peut-être un effet de présentation, d'appropriation par le sociologue du truc. Mais vous voyez, je suis moi-même déjà embarqué dans un truc de ce type-là.
J'avais une question sur... est-ce que vous avez déjà des premiers résultats, soit de l'enquête pilote qui a été menée avant 2011, de votre enquête génération 2011, sur des formes de différenciation sociale, sur les différents thèmes traités? Est-ce qu'il y a déjà...
Je viens de les évoquer, en fait. J'en ai pas beaucoup d'autres. Hein. Bon, on retrouve des choses qu'on sait quand même déjà à travers les travaux de Séverine Gaujard sur les différences en matière d'alimentation du bébé. On retrouve évidemment des choses sur le sentiment de justice, par exemple. Les questions qu'on avait posées, elles marchent assez bien, malheureusement, d'une certaine manière, enfin, en fonction de la trajectoire les gens sont toujours portés à rationaliser la situation qui a été la leur dans leur rapport à la justice scolaire. Ça fonctionne un peu différemment sur la justice économique. Donc on retrouve des choses un peu attendues, mais qu'on confirme, parce qu'il n'y a pas tant de grandes enquêtes que ça sur le sentiment de justice et d'injustice. Il y a beaucoup d'enquêtes quali, en fait. Donc il y a des hypothèses qui ont été testées en quali qu'on peut valider en quanti. Et ensuite, et là on n'a pas encore l'effectif suffisant dans le pilote qui porte sur 200-300 enfants, en fait, pour tester les corrélations avec d'autres dimensions. Mais donc on a validé des dimensions comme celle-là. Est-ce qu'on aurait des trucs plus originaux? C'est toujours pareil, les régularités sociales, quand on les ça pas démontré, on dit que c'est faux. Puis quand on les a démontrés, on dit qu'on le savait déjà. Mais sur les pratiques en matière de lecture d'albums, etc., on retrouve des différences attendues. Mais qui vont nous être utiles parce qu'elles mettent quand même de la différence à niveau social équivalent entre des pratiques qui peuvent varier en fonction de l'expérience ou du milieu ambiant de la famille, des choix aussi qui ont été faits en matière de garde de l'enfant. Alors, tout ce domaine-là, par contre, le rang dans la fratrie, Il y a un étudiant de master de l'ENS là, qui veut démarrer une thèse là-dessus, sur les écarts d'âge et la construction de l'identité de genre en lien avec le rang dans la fratrie et les écarts d'âge. Sujet que moi je trouve passionnant. Où il y a déjà deux, trois choses, c'est quand même quelque chose qui est peu investigué de manière systématique dans notre discipline, sur lesquelles on a sans doute là aussi des choses plus en psycho, mais sur lesquelles on n'a pas énormément. Donc, l'effet des modes de garde, par exemple, on sait peu de choses. On a beaucoup de littérature sur les modes de garde, sur les choix en matière de modes de garde, sur éventuellement les effets immédiats que ça a en termes de pratique familiale que de faire garder son enfant de telle ou telle manière. Mais l'effet du mode de garde sur la scolarisation en maternelle, rien. Je parle des grandes enquêtes. Il peut y avoir des... Alors que, intuitivement, on peut se dire que c'est quand même un domaine tout à fait... c'est une question évidente, quoi. Ce qui se passe au cours des premières années doit bien avoir une certaine incidence sur ce qui se passe en petite section, ne serait-ce qu'en termes d'intégration sociale. Mais y compris sans doute en termes cognitifs, en termes de langage. Donc là-dessus, il y a très peu de choses. Donc là-dessus, en fait, dans l'enquête pilote, on fait de l'exploitation, en coupe, quoi. On ne fait pas d'exploitation longitudinale du pilote parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs, et puis parce qu'on n'a pas le temps, à vrai dire. Parce qu'il faudrait rabouter les fichiers entre eux, etc. Ce qu'on fait dans le pilote, c'est qu'on vérifie un certain nombre d'hypothèses, et puis on a sans doute découvert deux ou trois petites choses qui ne me reviennent pas là. Donc moi, ce que j'ai plus vu, qui semble confirmé par certains résultats du pilote, et que je vois bien dans les premiers résultats du 2 mois, là, qu'on vient tout juste d'avoir, c'est que cette différenciation sociale, en prenant en compte les différentes espèces de capital, pour parler comme Pierre Bourdieu, eh bien, c'est très important. Ça marche. Et je pense que là-dessus, sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur l'appréhension des pratiques en matière d'alimentation, avoir la PCS à un niveau fin, le niveau de diplôme, le niveau de revenu des parents, c'est sans doute important pour faire avancer la connaissance de ce type de pratique. Donc moi, je vois bien ça dans mon enquête et il semblerait que ça aille dans ce sens-là, dans les premiers tris à plat que l'on a de l'enquête à 2 mois. Mais il faut qu'on développe l'investigation. Dans les projets un peu pluridisciplinaires, mais là, j'ai pas de résultat, il y a tout un chantier à développer sur les relations d'attachement qui ont un statut épistémologique un peu ambigu. Les relations d'attachement en psychologie, c'est peut-être un des paradigmes, comme on dit, les plus appréhendables pour le sociologue. Ça nous parle de relations sociales, au fond. Mais c'est souvent décrit dans la littérature ou par les porte-paroles les plus importants de ce courant, comme Boris Cyrulnik, comme quelque chose qui renvoie très fortement au biologique. Et puis, il y a quand même une insistance très très forte qui est mise dans le discours prescriptif qui accompagne les travaux sur les relations d'attachement. Ce n'est pas le cas de tous les psychologues, ce n'est pas le cas d'Agnès Florin, par exemple. Mais le discours dominant, disons, en matière de conclusion des travaux sur les relations d'attachement, enfin, vous savez, les relations d'attachement, c'est toute l'importance d'une sécurisation précoce des relations affectives, donc d'une relation forte avec le premier éducateur et le deuxième éducateur après lui, etc., des relations corporelles, des relations de sécurisation, etc., parce que les liens forts qui ont été construits de manière précoce permettent ensuite de prendre appui sur eux pour aller développer des relations sociales extrêmement diversifiées avec le maximum de sécurité, d'assurance et de compétences. Bon. Et donc, il y a l'idée que il ne faut pas trimballer trop les gosses, quoi, dans des configurations sociales et familiales improbables. Et il y a souvent, du même coup, un discours un peu prescriptif qui consiste à dire que l'allaitement maternel, le fait que la mère reste avec l'enfant jusqu'à la fin de la première année, c'est sans doute préférable pour le développement de l'enfant. Et donc, il y a une espèce de condamnation, a priori, des gens qui mettre leur enfant à la crèche trop tôt, et des couples gays. Donc, je pense que ça mérite d'être réinterrogé, parce qu'on peut penser que si le modèle de l'attachement est valide, il y a peut-être différentes manières de construire de l'attachement, et pas une seule. Et que, voilà, et que peut-être... Alors, on aura les indices d'une enquête quantitative. Il y a quelques questions. Il y a des questions sur le pot à pot à la naissance. Il y a des questions sur la réponse aux demandes du bébé au cours des premiers mois. Il y a des questions sur le temps passé, sur l'échange par le regard, sur les contacts physiques. Il y a quelques questions comme ça. Après, comme disent les psychologues, il y a un biais de désirabilité qui fait que ce que répondent les gens... Nous, sociologues, ça nous paraît incertain. Mais nos collègues de psycho nous disent « mais non, c'est testé. Même avec des questions comme ça, on peut quand même avoir des différences significatives sur ce genre de sujet. Donc, si il est vrai que ces questions marchent, peut-être ça sera intéressant de voir toutes les corrélations, toutes les configurations différenciées qui peuvent se nouer autour d'un bébé. » Et peut-être qu'au fond, c'est pas forcément la crèche le problème, c'est pas forcément le sexe du premier éducateur le problème, c'est peut-être davantage un certain style éducatif, une certaine sérénité des relations familiales. Voilà, et ça ne condamne peut-être pas forcément aussi fortement qu'on pourrait le penser les expériences familiales hétérodoxes. Je pense qu'il y a en tout cas un enjeu à ce que nous, sociologues, on intervienne sur ces questions-là pour en interroger la part de normativité. Donc j'ai fait une pirouette, puisque les résultats restent évidemment très exploratoires, mais voilà.
Et je me demandais, enfin, au-delà du parent référent, est-ce que vous avez interrogé des membres de l'entourage familial qui participent à la socialisation, qui peuvent être sans lien familial direct et les propriétés sociales des personnes qui interviennent.
Alors, en description un peu, par les parents, on a la description de tous les membres du ménage. D'accord. Est-ce que c'est des élèves, des gens au chômage, des gens de tel âge, des hommes, des femmes, s'ils ont des liens avec la famille de près ou de loin, avec les parents, etc., avec l'enfant. On a toute la description des autres parents potentiels, même quand on n'en interroge que trois, c'est quand même limité à trois, mais s'il y en a plus, on peut avoir les caractéristiques des autres, des grands-parents, des autres frères et sœurs, des quasi-frères et sœurs, des frères et sœurs qui habitent ailleurs parce qu'il y a une séparation. Par exemple, le père n'est pas au quotidien avec ses enfants, mais ne les voit que de temps en temps. Donc, on a une description de tout cela. Par ailleurs, on a une description du voisinage et des relations de sociabilité, mais sans identification des personnes, hein, mais plutôt en termes de description de la sociabilité. Donc ça, c'est en termes de description. Après, en termes d'interrogation d'autres personnes, donc on interroge trois personnes, on interroge un parent référent, un parent cohabitant, qui peut être marié, pas marié, qui peut être cohabitant sans être vraiment à proprement parler un parent de l'enfant, mais qui a une relation avec l'enfant. Et on a un parent non cohabitant, qui est un parent qui a une relation de filiation avec l'enfant, mais qui n'a pas forcément une relation éducative. Il a pu être séparé de l'enfant dès la naissance. Hein, donc, voilà. Donc ça, c'est les trois parents qui sont interrogés. Après, il y a un questionnaire au médecin traitant, plutôt sur les questions médicales, et on travaille sur un questionnaire à l'enseignant. Voilà. Et puis, on espère interroger, mais plus tard, l'enfant lui-même. C'est un parti pris de l'enquête. Là, c'est une question de format d'enquête, de nouveau, de se centrer sur un enfant. Parce que c'est cet enfant-là sur lequel on a tous les renseignements. Donc, on ne pose pas des questions détaillées sur tous les enfants de la fratrie. Alors, on est en train de discuter de cela, parce qu'on veut quand même avoir un minimum de choses pour prendre en compte les relations de fratrie. On ne va pas avoir tout sur les frères et sœurs. Mais on aurait à quel âge ils ont commencé l'école, peut-être... Et puis tout ce qui concerne les relations avec l'enfant elfe, quoi. Mais est-ce qu'il faut en savoir plus sur cet enfant-là? Bon, on sait de qui il est né, à quel âge il a, etc. Mais est-ce qu'il faudrait avoir des choses sur sa réussite à l'école, par exemple? Bon, ben ça n'y est pas pour le moment. Mais ce n'est pas exclu que ça y soit, mais pour le moment, ça n'y est pas. On n'a pas prévu de l'interroger non plus. Les sociologues qui sont dans le groupe socialisation éducation s'interroge sur la possibilité de créer des situations d'interaction qui ne soient pas au moment de l'enquête, quand on ira dans les familles ou dans les centres médicaux où auront lieu l'enquête à 8 ans, sur la possibilité que les interactions puissent se nouer avec les autres, avec les frères et sœurs. Bon. Mais pour le moment, c'est centré sur un enfant, quoi. Voilà.
Moi, j'avais une question sur l'enquête plutôt qualitative. Sur l'usage que vous faites des scènes qui sont filmées, comment vous les analysez, par exemple, c'est les Lego,
les Playmobil.
Les Playmobil. Et est-ce que vous filmez d'autres interactions dans le cadre familial?
Non. Alors, ça pourrait, mais moi, je veux pas non. Enfin, j'y vais doucement, quoi. Donc, le choix des Playmobil, c'était à la fois pour des raisons de. Vu l'âge des enfants à 2 ans, qu'est-ce qu'on peut faire d'utile? Moi, il me paraissait que le faire semblant qui est émergent à 2 ans chez la plupart des enfants était quand même une dimension qui intéressait beaucoup le sociologue, surtout quand il porte sur la famille. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les Playmobil, qui permettent en plus de tester certaines hypothèses sur l'identité sexuée. Dans certaines limites, parce que malheureusement, les jeux sont de plus en plus genrés, donc il y en a peu qui ne soient pas, et même les Playmobil, au fil de l'âge, tendent à basculer de plus en plus du côté des filles. Donc c'est pour ça que l'année prochaine, j'ai rajouté une pelleteuse, une moto, et je ne sais plus quoi. Et une table à repasser, et une machine à laver. Jusqu'à maintenant, il y avait la cuisinière, le frigo... la télé, la table allongée, etc. Ça, c'est pour le choix. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Il fallait filmer parce que enregistrer cela ou prendre des notes, il y a tellement d'informations. Elles peuvent être. On a standardisé le protocole au maximum, mais évidemment, ça ne respecte pas le protocole. Donc, pour saisir toutes ces interactions, pour des enfants qui ne parlent pas, quand même, hein, rappelons-le, hein, Ils ont des bribes, ils ont leur langage à eux. Il y a quelques mots qu'ils savent prononcer, mais que seule leur mère comprend. Donc on est à ce niveau-là. Mais il y a quand même quelques mots. Il y a pas gentil, pas gentil. Bon, voilà, il y a des choses qui sont très intéressantes. Donc, comment les capter autrement que par la vidéo? Parce que seule la vidéo permet de voir comment les quelques mots, les quelques formes de catégorisation émergentes trouvent place dans des échanges qui passent par le visage, par les gestes, par la mobilité, par les regards parfois. J'ai par exemple un enregistrement d'un petit garçon, c'était très drôle. C'est un ouvrier pâtissier en ascension qui aspire à avoir sa pâtisserie. Et sa femme est aide-soignante qui est devenue infirmière. Donc vraiment, classe pop ascendante. En cours d'ascension, ascension non terminée. Donc très intéressant du point de vue éducatif. On arrive dans la famille, un petit logement, ils avaient déménagé 3 fois en un an. Au bord d'un canal, en Picardie. Et alors, dans la cour, dans la petite cour, il y avait une énorme voiture électrique, haute comme ça. Et donc le père, et on entre dans la maison, des voitures partout. Photos de voitures, petites voitures, garage, enfin voilà. Qu'est-ce qu'aime votre enfant? Les voitures. Qu'est-ce qu'il adore? Les voitures. Et effectivement, le gamin jouait aux voitures. Oh, Playmobil et tout, mais ça ne va pas marcher. Ah ben, il y a une tante, je ne sais pas qui lui a offert, il avait une grosse gazinière. Et qui en plus était quasiment la reproduction de notre petite gazinière de Playmobil. Eh bien, ça a drôlement bien marché, les Playmobil. Et l'enfant a commencé à jouer d'abord avec la gazinière qui s'est remise en service alors que... Voilà. Et les premiers moments où il commence à jouer avec sa gazinière à lui sont très intéressants parce que c'est que par des gestes, des bribes, il tend la cuillère et donc l'étudiante lui répond par des mots et lui réagit toujours par des mimiques, des gestes, etc. Donc il y a très peu de mots. Donc ce genre de communication non-verbale qui englobe ici ou là des éléments langagiers me paraît très intéressant à analyser. Est-ce que j'ai une méthode pour l'analyser? Pas pour le moment. On a commencé à faire des trucs qui ressemblent à des transcriptions d'entretien. Donc on résume les interactions en quelque sorte, comme on ferait dans un compte-rendu ethnographique. Et puis dès qu'il y a ce genre d'échange, pas forcément verbaux, mais où de fait il y a l'un et l'autre qui communiquent à tour de rôle, là on essaie de mettre des tirets pour dire ce qui se dit ou se signifie dans cet échange. Et ensuite, quand le langage arrive, on met des guillemets. Voilà. Mais on a fait ça sur quelques minutes et tout, et ce n'est pas du tout avancé comme chantier, parce que comme vous l'avez vu, en plus, j'ai toujours pas publié, finalisé mes travaux sur la naissance. Donc, alors que ça, c'est l'enquête à 2 ans que je viens de faire. Donc, voilà. Donc, on y réfléchit. On va sans doute abandonner provisoirement cette méthode extrêmement méticuleuse, mais qui est chronophage au possible. On va sans doute faire des espèces de fiches de synthèse, en quelque sorte, sur les principales choses qu'on a observées dans les enregistrements, une espèce de compte-rendu ethnographique, là, pour le coup, et en se disant qu'ensuite, on reviendra au langage si on a envie d'y revenir, mais peut-être d'abord raconter ce qui se noue dans le jeu, dans l'interaction, dans l'échange avec l'enquêteur, qui est chaque fois extrêmement différent. Voilà. Donc, c'est en soi, un vrai chantier en soi. On pourrait faire une thèse là-dessus, je pense, mais c'est pour ça que c'est un peu délirant comme protocole de recherche, mais c'est tout à fait intéressant, et moi, je suis très intéressé sur toutes les références que vous avez de gens qui travaillent sur des choses proches, parce qu'évidemment, on est tout à fait preneur, quoi. Anaïs Bonanno, qui m'a donc suivi... j'ai pas trouvé un étudiant qui fasse toute l'enquête avec moi cette année, donc j'en avais 3 et ils se sont partagés l'enquête. Mais Anaïs Bonanno a fait une partie de son master là-dessus et donc elle exploite actuellement les vidéos là justement, et on va essayer de publier un truc là-dessus à la fin de l'année. mais ce n'est pas simple parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, quoi, en fait. C'est toujours pareil dans l'observation, le problème, c'est de choisir, quoi. Voilà. Donc, elle et moi, nous sommes intéressés pour, s'il y a des gens qui ont des idées. Et des, voilà. Parce qu'il y a quelques trucs, mais pas tant que ça, quoi, en fin de compte. Hein. Voilà.
Je pense qu'on peut... S'il n'y a pas de questions, plus de questions. Donc, bah, on peut finir la séance. Bah, merci beaucoup pour cette conférence et d'avoir répondu aux questions.
Merci à vous.
Donc, la prochaine, c'est le 17 avril. C'est Stéphane Bonnery qui parlera des socialisations lectorales d'enfants de 5-7 ans.
Et dont je prends quelques conseils.
D'accord, avec aussi de la vidéo.
Les lecteurs d'albums.